de réfléchir sur ce thème. Okay. Ah donc, si vous ne connaissez pas, je peux faire un autre alors. Restez jeune dans sa tête. Mais moi, j'ai eu du mal parce que j'ai tendance à vieillir. Alors, cette notion-là, c'est pas tellement évident de trouver des références. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Parce qu'il y a cette notion d'être jeune et cette notion d'être vieux. Maintenant, la notion de jeune et de vieux, quand on réfléchit dessus, avec un petit peu avec le recul, est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de regard sur la vie? Est-ce que c'est une question d'élasticité neuronale? Oui, est-ce que quelqu'un il est refif ou est-ce qu'il est lourd? Ouais. Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question d'approche de la réalité? Alors c'est quelque chose qui n'est pas très simple. On sait que tsaïr en hébreu, ça veut dire jeune. Aussi on dit nahar avec un haïn, c'est l'adolescent. Maintenant, cette notion-là de nahar, elle veut dire aussi quelque chose qui bouge, quelque chose qui se réveille, quelque chose qui est en mouvement. Un peu comme le fleuve. Au niveau phonétique, nahar, c'est un fleuve avec un ré. Et nahar, oui, c'est le jeune, c'est l'adolescent. Ça veut dire que quelqu'un, il est en mouvement, quelqu'un... Alors maintenant, on sait que quand quelqu'un, il est enfant, il n'est pas encore formé. Et quand quelqu'un, il est adulte, il est plus figé, presque psychorigide, d'accord? Et au milieu, il y a l'adolescent. Il dit maintenant, après maintenant, c'est combien de temps quelqu'un, il reste adolescent? C'est-à-dire combien de temps quelqu'un, il reste en mouvement? Combien de temps quelqu'un, il change? Quelqu'un, il est prêt encore à s'adapter, à évoluer. Il dit cette logique-là, d'être en mouvement et de rester en mouvement. Alors c'est une bonne définition de la jeunesse. De savoir, est-ce que quelqu'un il est figé ou est-ce que quelqu'un il bouge? Par contre, le contraire, quand on parle de Zaken, quelqu'un il est vieux, alors c'est bizarre, le corps physique et le corps psychique, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que quelqu'un il vieillit, alors il commence à avoir des blocages, et commence de l'arthrose et de l'arthrite, et les articulations elles sont moins trucs, et les forces elles sont moins fortes. Et dans la tête c'est pareil, la personne elle est bloquée, elle devient têtue, essaie de faire changer le vieux. Ah, laisse-moi tranquille, moi j'ai les habitudes. Et nous-mêmes, on se rassure de ces petites habitudes. On a les petites habitudes du matin, les petites habitudes de l'après-midi. Donc on va en vérité, on va vers la rigidité. Ouais, on va vers le blocage. Alors c'est cette logique-là que normalement, on serait condamné donc à être des jeunes qui ne seraient pas construits mais qui seraient en mouvement, ou être des vieux qui seraient bloqués. Et alors ça va dépendre. S'ils ont le bon chemin, alors c'est bien pour eux. S'ils ont pris le mauvais, ils vont être entêtés puisqu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'obstination avec la détermination. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils s'entêtent. Bien qu'ils savent qu'ils se mentent à elles-mêmes, puisqu'on sait ce qu'ils ont dans la tête, c'est le mensonge. D'ailleurs, on dit en français l'entêtement. Oui, l'entêtement. Ils se mentent dans la tête. Ils disent simplement parce qu'ils sont... il faut être capable. Il faut avoir cette élasticité de la remise en cause. Et c'est aussi ça la jeunesse. D'être capable de dire, bon, je me suis trompé, ou je n'ai pas vu du bon côté. Ou peut-être même on peut voir d'un autre point de vue. Ou peut-être on peut écouter une autre voix, une autre personne. C'est pour ça que dans la Guémara, on ramène toujours plusieurs avis. Et que quand tu écoutes un, tu écoutes l'autre, c'est difficile. Quand tu écoutes un, tu dis, c'est lui qui a raison. Quand tu écoutes l'autre, tu dis, c'est lui qui a raison. À la fin, tu dis, les deux ont raison. Tu dis, ou divrei elou, velou, divrei elokim haim. Oui, les deux ont raison. Et si tu rentres dans les commentaires, celui-là, il argumente tellement bien, tu dis, oh, le Rashba, il a raison. Après, tu rentres bien dans le Ramban. Non, le Ramban, il a raison. Comment tu vas savoir qu'est-ce qui est bon? Ouais. Et ça, la Torah n'a pas peur de prendre ce risque. Il y a d'autres religions où c'est interdit, mais d'abord, il n'y a pas d'autre lecture. Il y a une seule lecture, tout le monde est au courant, d'accord? Et en plus de ça, celui qui va amener une autre lecture, déjà, il s'appelle qu'il remet en cause la vérité. Non, la vérité, elle bouge. La vérité, elle est plurielle. La vérité, elle est en mouvement. Torah chez Birtav, on n'a pas le droit de changer une lettre. Torah chez Béalpé, la Torah au Rav, on n'a pas le droit d'écrire. Aujourd'hui, il y a un très grand Rav en Israël, très grand Rav, il s'appelle Rav Moshe Shapira, qui est très très fort dans la pensée juive et très fort dans la Kabbalah. Il n'a pas écrit de livre. Il n'a pas écrit de livre. Quand on lui dit, mais vous n'écrivez pas, il dit, non, j'écris pas. La Torah, elle est en mouvement. Maintenant, des élèves à lui, ils ont écrit. Oui, mais lui, il pense que c'est une manière de figer les choses et que c'est dommage que la chose, elle doit bouger. Ça s'appelle Torah chez Béalpé. C'est-à-dire que la Torah qui a été donnée au Sinaï, elle n'a pas bougé d'une lettre, d'accord? Mais la Torah orale, en vérité, elle évolue dans chaque génération. Et bien, dans un homme, puisque l'homme, il vient de la Torah, dans un homme aussi, il y a des choses qui vont rester, il y a des principes fondamentaux qui vont rester, mais à part ça, il y a des choses qui vont bouger. Et la Torah orale de l'homme, c'est comment il va évoluer. Tu vois bien comment il se conduit avec les enfants. Les petits-enfants, ils ne se conduisent pas comme ils se conduisaient avec les enfants. Comment il était au début du business, il n'est pas pareil maintenant. On dit en français, il a plus de recul. Après, normalement, après 20 ans de mariage, a priori, on espère, on n'est pas exactement les mêmes qu'après la première année de mariage. Si on est encore dans la même susceptibilité, la même gaminerie, la même bêtise, le même amour propre, c'est dommage d'être resté marié longtemps, c'est dommage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui reste, parce que de toute façon, on s'aime, de toute façon, on est fait l'un pour l'autre, mais il y a une partie qui bouge. On change dans le dialogue, on change dans l'évolution. Donc tu vois, il y a la Torah chez Irtav du couple et la Torah chez Béralpé du couple. Vous voyez un peu où? Oui. Alors maintenant, cette partie qui doit rester en mouvement, elle est toujours liée à une partie qui ne bouge jamais. Comme les muscles, ils évoluent, ils gonflent, ils se dégonflent, ouais. Mais le squelette, il bouge pas, heureusement, ouais. Donc c'est pareil dans la pensée. Dans la pensée, il y a des structures qui sont très claires, très fortes, très nettes, d'accord, la structure mentale, mais il y a un fluide. Et ce fluide-là, c'est sur ce fluide-là qu'il faut maintenir la jeunesse. Les gens incohérents, ils font le contraire. Les choses qui doivent bouger, elles sont bloquées. Ouais, on leur dit, mais c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Non, non, pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est qu'au niveau de leur amour propre, ils sont rigides, mais au niveau de leur mental, ils sont flous. Un jour, ils pensent comme ça, un jour, ils pensent comme ça. C'est le contraire du émettre. Que quelqu'un, il doit avoir une pensée, c'est une pensée. Il y a la ha, c'est une la ha. D'accord? Les gmarot, c'est les gmarot. Les chachamim, c'est les chachamim. Ça doit être clair. Le gars, il dit, oh, tu sais, on peut... Ça, qui a dit que c'est marqué, où c'est marqué, ça m'intéresse pas, ça me saoule, ça me prend la tête, ça me... Donc, en réalité, le niveau structurel, il n'est pas formel, alors qu'il devrait être formel. Et le côté qui doit être souple, c'est-à-dire qui doit être ouvert, qui doit pouvoir changer d'angle, celui-là, il est bloqué. Donc, ils sont montés exactement à l'envers. Et donc, quand on parle de Zaken, bizarrement, dans la Torah, chez les Chachamim, quand on parle de Zaken, c'est pas justement celui-là qui est bloqué. C'est le contraire. On dit Zaken, Zé Shekana Chorma. C'est quoi Zaken? C'est quoi le vieux? C'est quoi la personne âgée? Zé Shekana, qui a acquis la sagesse. Alors maintenant, ça veut dire que quelqu'un très jeune, on peut l'appeler Zaken. À l'époque, j'avais réfléchi, j'avais dit, quand j'étais parfois, j'ai dit pourquoi? Pourquoi le Zaken? Pourquoi le Chacham, le sage, on l'appelle Zaken? Il n'est pas Zaken, voilà, il est jeune. Ouais. Alors on dit, parce que Zé Shekana Chokhma, c'est celui qui a acquis la sagesse. On dit, mais non, mais c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le fruit de l'expérience. D'accord? Donc quand quelqu'un a vécu beaucoup d'expériences et qu'il a tiré une leçon de chaque expérience, alors il va avoir un niveau de sagesse supérieur. Maintenant, il y a deux manières d'avoir de l'expérience. Soit quelqu'un, il va beaucoup vivre d'événements, et de chaque événement, il va tirer une sagesse. Soit quelqu'un, il va beaucoup étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, surtout la Gemara, elle amène des centaines et des centaines de cas. Tu fais d'un sujet à l'autre. Et à chaque fois, tu vas te confronter à une réalité, et cette réalité-là, il va falloir que tu répondes. Il y a un grand rab qui est tard, il s'appelle Rav Simcha Wasserman, qui était le fils de Rav Elchanan Wasserman. Il connaissait toute la Torah par cœur. Tout par cœur. Ouais. Mais tout. On lui posait une question, directement. Mais tout, mais c'est pas seulement la Gemara et le Chumash. Non, tout, c'est le Rashi, le Ramban, le Ran, le Ritva, le Rabbi Akiva Eiger, tout. Tu lui réponds. Après, un jour, quelqu'un lui a dit, mais comment vous faites pour vous rappeler? Il a dit, mais comment on fait pour oublier? Pourquoi? Parce que tellement il aime ça, tellement c'est ça sa vie. Comment il va oublier sa vie? Tu oublies ton numéro de téléphone, tu oublies ton numéro de compte, tu oublies ton adresse, tu oublies le nom de ton fils. Tu dis, mais attends, c'est plus compliqué quand même, Zvachim, c'est plus qu'un prénom. C'est compliqué. Il dit, bah, c'est une question d'ouverture d'esprit. Ouais. Comme quelqu'un, il a tous les souvenirs de la jeunesse, tac, 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 il te raconte tout. Ouais. Ou les gens, ils écrivent un livre sur la guerre, ils te racontent jour par jour tout ce qui s'est passé. Tu dis, mais c'est pas possible. Toi, tu te rappelles pas ce que tu as fait avant-hier. Comment tu vas te rappeler d'un truc qui s'est passé il y a 60 ans? Il se rappelle de tout. En vérité, le problème, c'est pas si on a une bonne mémoire ou si on a une mauvaise mémoire. Le problème, c'est est-ce qu'on a vécu la chose ou est-ce qu'on a traversé la chose? Si on a vécu la chose, alors on dit en français, on est impressionné. Quand on est impressionné, ça veut dire que ça impressionne, ça veut dire que ça s'imprime. Quand ça s'imprime, tu retiens. Maintenant, quelqu'un qui est impressionné par la Torah, elle s'imprime. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui lit la Torah, quelqu'un qui tourne les pages, quelqu'un qui fait ses obligations religieuses, quelqu'un qui consacre quelques heures par jour, bon, il fait, ouais, comme des gens qui se marient, des gens qui ne se marient pas. Il y a des gens qui ne se marient pas. Ils restent des années ensemble, et un jour ça ne va plus, ou alors il y a une secrétaire un jour qui arrive et qui a d'autres qualités morales qui l'intéressent, paf, le couple il disparaît. Il dit, je ne comprends pas, mais vous êtes marié, non? Hop, tout a disparu, comment c'est possible? Toi, tu crois que ça a disparu. En vérité, ça n'avait pas commencé. Encore jeudi soir, il m'a attrapé. Non, mercredi, il m'a attrapé un gars, un avocat, en crise comme ça. Il dit, il faut que je vous parle, il faut que je vous parle. Je dis, écoutez, j'ai pas le temps. Ah! Après, il m'a parlé de ce qui s'est passé, qu'il avait des gros soupçons sur sa femme, qu'elle aurait fait des grosses bêtises. Je dis, mais vous êtes religieux? Il m'a dit, non. Je dis, alors, c'est une mitzvah fautée chez vous. Il m'a dit, ah, il s'est énervé, je vois. Alors, après, je lui ai dit, écoutez, je dois faire cours dans le 17e. Quel jour aujourd'hui? Dimanche. Donc, c'était jeudi soir. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je prépare un programme, je vous le donne. Je vous l'envoie par la poste. Après, il m'a dit, mais j'ai vu l'adresse, c'est juste à côté du cours. J'ai dit, vas-y, dites à votre femme, si elle veut, c'est un cours pour dame de Shalom Bayit, qu'elle vienne. Elle est venue. Elle est venue. Bon, quand elle est venue à la fin du cours, elle m'a parlé. Mais bon, c'est des gens qui mangent des crustacés, donc eux aussi, ils ont crustacés quelque part, ouais. J'ai dit, bon, j'ai parlé avec elle. Le lendemain, j'ai dit à son mari, dites à votre mari qu'il m'appelle demain. J'ai parlé pendant une heure au téléphone. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Que ta femme, elle a passé des heures avec quelqu'un au téléphone. Mais comment ça parle chez ton couple? Ah ben, je suis dans le business et je voyage beaucoup. Et c'est vrai qu'on ne se parlait jamais. Et elle aussi, elle a pris sa distance parce qu'elle a créé son business. Moi, j'ai écrit mon truc de mon côté. Les enfants, ils grandissaient tout seuls avec la nounou. Et puis, on ne se parlait pas. Et puis après, elle a commencé à me parler avec quelqu'un. Je dis, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Tu me parles de toi, d'un événement, genre de perte de confiance, alors que toi, tu as créé l'espace pour que l'événement puisse exister. Et je parle même pas de toi. Je parle de votre couple. Votre couple, il a créé ça. Parce qu'une chose ne peut pas exister dans un endroit qui n'est pas. Oui. Et on dit en science, on dit l'univers n'aime pas le vide. Donc quand tu fais un vide dans ton couple, il va se remplir de quelque chose. Quand tu fais un vide dans ta tête, il va se remplir de la dépression. Quand tu fais un vide dans tes idées, il va devenir des mauvaises idées. Parce qu'il y a un vide. Et quand tu fais un vide dans ta relation avec le divin, tu dis c'est marrant, je ne ressens plus rien. Mais c'est toi qui as créé ce vide. Donc il ne doit jamais y avoir de vide. Ou alors c'est toi qui dois décider qu'est-ce qu'il y a dans le plein. Mais ne viens pas chez moi me dire j'ai eu un passage à vide et d'un seul coup j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce que moi, c'est moi qui aurais pu te raconter. D'ailleurs, le gars, je lui ai coupé la parole quand il a commencé à me dire. Moi, je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans la vie de ta femme. Il m'a dit, mais comment vous savez, vous êtes un prophète? Je dis non. Ouais, mais je connais le Yetzirah. Et c'est exactement pareil. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de différence entre un couple, entre une personne, entre une relation avec un enfant, une relation avec le divin, c'est tout la même chose. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Est-ce que c'est construit, est-ce que c'est pas construit? Est-ce qu'il y a du plein, est-ce qu'il y a du vide? Est-ce que c'est moi qui le prends en charge? Est-ce que je le subis? Est-ce que je suis en mouvement ou est-ce que je suis statique? Dans tous les systèmes, à chaque fois qu'on arrête le mouvement, il commence à y avoir des problèmes. Comme une maison, tu ne l'entretiens pas, elle va tomber. Ah, tu sais combien ça coûte? Comme tu veux, mais de toute façon, ça te coûtera plus cher. Et en plus, elle prend de la valeur. Et dans tout, c'est pareil. Chaque minute que tu passes avec ton fils, c'est une minute de plus qu'il a reçue de toi. Tu dis, j'ai pas de temps, j'ai pas la tête, j'ai le truc, bon, franchement, il y a une bonne école, il y a un rave qui s'occupe de lui, comme tu veux, mais t'as pas eu à toi. Donc le jour où tu auras besoin qu'il t'écoute, tu t'entendras pas parce que tu n'as pas créé l'oreille pour qu'il t'entende. Mais de la même manière que l'enfant, il doit avoir une oreille pour t'entendre, même toi, tu dois avoir une oreille, toi, pour t'entendre, toi. Toi-même, tu dois avoir une oreille pour t'entendre. Par exemple, quand on prie, qu'on fait les mitzvot, qu'on met la kavana, qu'on s'investit dans qu'on fait de la tzedaka, qu'on essaie de ressentir les choses. En vérité, on crée une oreille pour que le jour où Hachem va nous faire un clin d'œil, on va voir un clin d'œil. Vous suivez où? Mais si on n'a pas créé le réceptacle, on ne va pas le voir. Maintenant, tu vois ce lien entre le clin d'œil et la réception du clin d'œil? C'est ça la jeunesse. Et c'est quoi la vieillesse? Ben écoutez, j'ai rien compris ce qui s'est passé, vraiment je suis choqué, je ne m'attendais pas du tout, comment un enfant il fait une chose pareille, comment mon associé, comment mon beau-frère, comment ma femme, je dis, comment ça se fait que tu n'es pas au courant? Parce que tu es vieux. Ouais, mais pas vieux dans l'âge. Ouais, tu es vieux dans le mouvement, tu es vieux dans le côté vivant, tu es vieux dans l'aïtrachut, tu es vieux dans l'aïtorirut, dans le réveil, dans l'enthousiasme, dans l'investissement. Et cette vieillesse-là, elle est dangereuse. C'est pour ça quand on disait que chez Kana Chochma, oui, celui qui a acquis la sagesse, il dit celui qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de Gemara, tu lui parles, tu dis, mais quelle maturité et quel recul. Pourtant, le gars, il a rien vécu. Il n'a pas vécu encore. Il est encore dans la théorie. Mais il a un recul incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a vécu intellectuellement des dizaines de cas. Maintenant, même ces dizaines de cas, s'il s'est impliqué dedans, il a mis sa neshama dedans, c'est comme s'il les avait vécu. C'est-à-dire qu'il peut retirer la maturité du vécu seulement à partir de la relation avec, avec le texte. J'avais un copain comme ça, il avait une mémoire phénoménale. Et le Rav, quand il faisait un cours, il fallait peut-être 2 semaines pour réviser. Il y avait cours tous les jours. Et il était compliqué le cours. Parce que comme ça. C'est pas comme un cours de faculté, petit A, petit B, petit C, blablabla, blablabla. Non, 24 mauvaises manières de lire pour que tu comprennes la bonne manière de lire. Mais les 24 manières de lire mauvaises, elles sont elles-mêmes appuyées, fondées, démontrées, développées, mais fausses. Parce que celui qui ne sait pas voir la finesse du faux, il ne verra pas la finesse du vrai. Donc il peut avaler du faux de manière très très intelligente sous prétexte qu'il est démontré. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand on leur explique la bêtise, ils pensent qu'elle est intellectuellement accessible. Alors que ça reste faux, mais c'est expliqué intelligemment. Donc il faut que tu vois du faux intelligent pour voir du vrai intelligent. Ça va? Alors je lui ai dit, mais comment tu retiens tout? Il m'a dit, je te dis la vérité, quand on est en train de faire le cas de la Guémara, pour moi c'est mon cas. Oui? Je ne dis pas, chercher Nagar et Tapara, il y a un taureau qui a encorné une vache, et la vache elle était dans une propriété privée, et là-bas le gardien il ne l'a pas gardée, après il avait parce qu'il avait confié un enfant, donc le fait de donner un enfant c'est pas une bonne préservation. D'un autre côté, il était dans un endroit privé donc il n'était pas censé être attaqué, après c'est le bœuf de l'autre qui est rentré, il a dit, ben, tu vois ce bœuf là, c'est mon bœuf, et tu vois le gosse qu'il n'a pas gardé, c'est mon fils, c'est mon neveu, ouais, et la maison c'est chez mon beau-frère. Comme ça il fabriquait, il personnalisait l'histoire. Maintenant, si moi je suis au Bedin et que je vais perdre 2000 euros de viande parce que ce bœuf-là, il va être abattu, ça me prend les nerfs, ça m'énerve. Alors tous les détails de l'histoire, je la connais. Comme toi, si tu as un problème, normalement, quelqu'un qui a un cas, pourquoi dans la loi, même la loi profane, un homme n'a pas besoin d'être d'un avocat, il peut aller lui-même défendre son cas. Oui. Et bien souvent dans les cas, si tu regardes bien, si c'est quelqu'un qui s'intéresse à son problème, il connaît mieux son cas que l'avocat. Maintenant, lui, chaque cas de Guémara, il en a fait son cas à lui. Maintenant, dans ton cas à toi, tu ne vas pas oublier, non? Alors, il retenait tout. Et quand le Rav, il faisait tous les pilpoulim pour arriver à la conclusion de la halakha, lui, il suivait parce que c'était son argent. Vous avez compris comment il a fait? Ouais. Et à l'époque, je ne savais pas, mais le Rav de Brisque, quelqu'un lui a demandé, mais comment tu retiens toutes les références? Il a dit, ah, c'est un business, chérie, c'est mon business. Le gars qui a un magasin, ouais, il a 62 000 références, c'est un épicier. D'accord, donc il a disons 20 000 fournisseurs, et il a 43 000 couleurs et détails. Et pourquoi il connaît tout? Parce que c'est son business. D'accord, comment tu oublies le DAF dans Baba Kama? Ce que je te dis, c'est pas mon business. Et comment t'as oublié ce Rachid qui à l'époque t'avait époustouflé? Qu'est-ce que je te dis, j'en ai vu d'autres des Rachid. C'est ça ton problème. C'est qu'en réalité, t'es pas dedans. Alors tu dis, ouais, mais bon, à la Torah, ça reste intellectuel. Ah bon, alors comment t'as oublié tous ces bons moments que vous avez vécu ensemble? Maintenant que t'as un problème avec ta femme, de ce coup, tu te mets dans la Gahava, tu te m'as crié. Mais comment t'as oublié? Si t'as oublié toutes ces pages de Gemara, t'as oublié aussi tous les bons moments qu'on a eu ensemble? C'est la même chose. Oui? Quand tu, cet enfant-là, tu vois qu'il a une mauvaise note, tu t'énerves. Mais t'as oublié tous les efforts qu'il a fait? Tu te rappelles pas qu'à la naissance, il a eu un problème respiratoire et qu'à cause de ça, les médecins, ils ont dit qu'il allait être un petit peu lent d'esprit. Et tu as oublié que tu l'as amené 150 fois chez la bonne femme qui fait le l'éveil, je ne sais pas quoi. Et tu l'as emmené chez le psychologue et tu l'as fait faire des exercices et que tu as travaillé. Et tu as vu qu'il est monté petit à petit et qu'il a atteint un niveau normal. Et après, il est monté encore, il a atteint un niveau supérieur. Tu as oublié par où il est passé, que tu es en train de le saouler parce qu'il a eu moins que le meilleur de la classe. Tu as oublié tout ça? Donc jamais tu dois oublier. Maintenant, quand tu n'oublies pas, c'est parce que tu as été impressionné. Pourquoi est-ce que tu as été impressionné? Parce que tu l'as vécu. Donc tout ce que tu ne retiens pas, c'est les choses que tu n'as pas vécues. Maintenant, la question elle est-ce qu'on est obligé de vivre tout ce qu'on vit? Est-ce qu'on est obligé de vivre tout ce qu'on vit? C'est comme quand tu roules en voiture. Tu ne peux pas photographier tout ce que tu vois. Tu vois tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rester en vie. D'accord? Tu vois le feu rouge, tu vois le gars qui roule un peu bizarre, tu vois qu'il y a une priorité, tu vois, c'est tout. Le reste, tu ne vois pas. Tu ne vois pas qui c'est là, qui c'est dans la voiture en face. Tu ne vois même pas ta tante qui est en train d'attendre le bus sous la pluie, tu ne l'as pas vu parce que tu étais en train de t'occuper de la route. Donc tu dis, on est obligé maintenant de faire un choix de voir ça ou de voir ça. C'est vrai, mais dans les choses qui te concernent à toi, comment tu peux passer à côté? Et bien, passer à côté de l'essentiel, c'est ça la vieillesse. C'est pas une question d'âge. Vous me suivez ou... Ouais. C'est pas une question d'âge du tout. Parce que tu as des gens de 95 ans qui ont une sensibilité, une acuité intellectuelle incroyable, et tu as des gens de 16 ans et demi qui sont des bahams et complets, des couvercles de poubelles. Tu dis, ok, t'es pas religieux, mais t'es pas obligé d'être bête, c'est pas une bisva d'être ahmar. À un tel niveau, en plus il est déjà atteint la hassidout en lourdeur. C'est-à-dire, il fait tout à l'envers, tout, mais avec une précision et une perpétuité. Tu dis, mais t'es un génieur de bêtises, toi. Déjà incroyable, chaque chose à l'envers. Alors moi, on t'a pas dit d'être dans un talmid chacham, mais sois normal. Bon, tu veux pas être normal, sois cohérent. Tu veux pas être cohérent, ben, au moins que tu aies des principes. Tu veux pas de principes, au moins aie de l'ambition. Tu as pas d'ambition, au moins sois vivant. Même pas. C'est ça que j'avais compris, moi. Moi, j'avais compris. Même à l'époque, quand j'étais pas vraiment religieux, quand j'étais jeune, je pouvais pas supporter que les gens, ils acceptent d'être des CON. CON. Bon, ça existe en italien aussi. Ouais. Mais comme il y a certains droits, tout ça, bon. Mais moi, pour moi, c'est pas un gros mot, c'est une définition chimique. C'est une espèce de fossilisation du cerveau. C'est une espèce de cerveau qui devient un caillou. Quand il bouge, d'ailleurs, tu l'entends. Et quand tu l'entends plus, c'est qu'il a pris toute la tête. Ouais. Mais cette logique-là, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, c'est un CON. C'est quelqu'un qui est inadapté à sa réalité. Et c'est quoi un intelligent? C'est quelqu'un qui est adapté à sa réalité. Maintenant, si quelqu'un il a un très gros cerveau, mais ses intérêts l'empêchent de vivre sa réalité, on l'appelle un CON. Si quelqu'un il a un couple extraordinaire, mais son orgueil l'empêche de profiter de son couple, on l'appelle un CON. Si quelqu'un il a beaucoup d'argent, mais son amour propre l'empêche de se mettre au niveau pour l'utiliser ou l'optimiser comme il faudrait, on l'appelle un CON. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec les données. C'est un problème de relation que tu entretiens avec les données et une relation que tu entretiens avec la réalité. C'est exactement pareil. C'est pour ça que la Gemara dit que « Afilu kara, afilu shana » si quelqu'un il a étudié toute la Torah écrite et toute la Torah orale, « Imlo shimesh talmide chachamim arezi amaret » la Gemara dans Sota, ouais. Si quelqu'un, il a étudié toute la Torah écrite, toute la Torah orale, donc a priori il connaît tout, ouais, un sefer Torah vivant. Mais il n'a pas servi les sages. C'est un ignorant. L'ignorant, normalement, c'est quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne connaît rien. Ouais. Et s'il connaît le Kumash, il ne connaît pas la Mishnah. S'il connaît la Mishnah, il ne connaît pas la Kabbalah. Ouais. Hein? Il n'a pas servi les rabbins. Les sages. Rabbini. D'accord. La Gemara dit comme ça. Afilu kara, afilu shana, imlo shimesh tamid chamim arezeh amaret. Même si la kara, c'est le kra, c'est le kraya, ouais, c'est la Torah écrite. Shana, c'est Mishnah, la Torah orale. Donc il connaît toute la Torah orale, toute la Torah écrite. Imlo shimesh tamine chachamim. S'il n'a pas servi les sages. Alors il y a deux lectures. Soit shimush tamine chachamim, ça veut dire qu'il n'a pas, vu comment la Torah était vécue. Comme moi, par exemple, j'ai appris les halakhot de Shrita et les halakhot de cache-cou de la bête. Mais j'ai jamais été dans un abattoir. Si tu me donnes un couteau, je sais pas, tu m'ouvres un abdomen de bœuf, tu dis, alors il est crevé l'estomac, je sais même pas ce que c'est l'estomac. Je vais pas le reconnaître, peut-être les poumons, en gros, ça c'est l'estomac, ça c'est le petit estomac, je sais pas, parce que j'ai pas le chimouche, j'ai pas vécu la chose, d'accord? Ben c'est exactement pareil. L'eau chimèche tamil chamim, ça veut dire il n'a pas le vécu de la Torah. Il a la Torah, mais il n'a pas le vécu de la Torah. D'accord? Mais il y en a qui disent, c'est quoi shimush tamil chamim? C'est quoi servir les sages? Il dit, c'est la Gemara. Vous avez compris? C'est la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te prend le pasuk et elle te prend la Mishnah et elle te les confondre. Après, elle t'amène une autre Mishnah, une autre Braïta, et elle t'oblige à rentrer dans des Cheshbonot. Et ça s'appelle Shimush Tamid Chamim. C'est-à-dire que si tu ne passes pas le tri de la Gemara, alors tu ne pourras pas rentrer dans la compréhension. Il te manquera dans le niveau de maturité. C'est pareil, toi tu es très intelligent, tu as ton idée. Et l'autre, il est très intelligent, il a son idée. Maintenant, toi, tu es prêt à te confronter avec l'autre? Tu es prêt à discuter avec l'autre? Maintenant, il y a des gens, ils ne discutent pas dans leur couple. Il y en a, ils ne veulent pas entendre ce qu'ils disent les enfants. Il y en a qui les employés, ça ne les intéresse pas. Il y en a, ils ont leur point de vue. Il y en a, ils pensent tous les goïms sont des imbéciles. Il y en a, ils pensent que même Dieu, c'est pas évident qu'il a son mot à dire sur cette terre. Donc ils sont pas dans, ils sont pas dans l'échange, ils sont pas dans le dialogue, ils sont pas dans la dialectique. Donc il y a une question qui se pose, c'est pourquoi ils sont plusieurs sur la terre. Il aurait dû être seul. Et bien cette incapacité à échanger, ouais, comme sur le modèle de la Guémara, que tu confrontes la vie de Rabbi Yehuda et la vie de Rabbi Tarfon, ouais, de la même manière, dans la vie, tu dois aussi confronter. Et bien il faut que tu entendes la voix de ta femme. C'est pour ça qu'on t'a marié avec une femme. Ouais. Et toi, il faut que tu entends le point de vue de ton mari. Et toi, il faut que tu entends le point de vue de l'enfant. Quel âge il a ? 8 ans ? Ok, mais là, il a 19 ans. Tu es obligé d'écouter. Tu es obligé d'écouter. Mais il ne comprend rien, c'est un bébé. Écoute-le. Parce que même sache que le crédit qu'il va donner à ta parole, elle dépend que de l'écoute que tu as eue pour lui. Donc si toi, tu n'as pas écouté, tu n'écouteras pas. Ça, c'est la base. À part ça, qu'en l'écoutant, tu peux entendre des choses que tu n'avais pas imaginées. Tu dis, je ne savais pas qu'il était tellement sensible, je ne pensais pas qu'il avait pris à cœur. Je pensais pas que ça l'énervait à ce point. Je pensais pas que, en fait, il s'en fichait complètement. Donc tu as besoin de ça. Maintenant là aussi c'est pareil. Ce lien-là, cette espèce de mélange entre son point de vue et ton point de vue, en sa lecture et ta lecture, et ben cette élasticité-là qui permet de lire, ça aussi c'est de la jeunesse. C'est pour ça que tu vois des gens. Moi des fois je suis choqué. Je leur dis mais qu'est-ce qu'il en pense de Paris ? Je sais. Ah bon ? Comment est-ce que votre père, comment il a vécu cette chose? Je sais pas. Mais c'est votre père. Je sais pas. Vous savez, on ne se parlait pas beaucoup. C'est bizarre. C'est très bizarre. Des familles comme ça, où en fait les gens ils sont pas ensemble. Ils sont l'un à côté de l'autre. Et des fois ils sont même pas l'un à côté de l'autre. Ils sont loin. Et sachez que la distance n'a rien à voir avec l'espace géographique. Oui. C'est pas la distance qui fait la distance. C'est la distance du cœur qui fait l'éloignement. Maintenant, la proximité du cœur, même s'il y a l'éloignement géographique, il n'y a pas d'éloignement géographique. Par exemple, quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu penses à lui, d'un seul coup, le téléphone sonne, c'est lui. Tu dis, mais pourquoi tu m'appelles? Pourtant, il y a 6 heures de décalage. Eh bien, écoute, je me suis dit, il faut que je t'appelle. J'arrête pas de penser à toi. En vérité, parce que tu penses à lui, il pense à toi. Donc, tu vois que c'est pas la distance qui fait la distance. Des fois le contraire, la personne elle est là, parce qu'en fait, au niveau de la Neshama, il n'y a pas de distance. Parce que quand on rentre dans l'essence de la matière, à la vitesse de la lumière, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temporalité. Le temps s'arrête et l'espace il est un. Ouais. Donc dans l'essentiel, on est tout un. Mais dans le superficiel, on est tous séparés. Donc si tu regardes ta personne, tu es séparé du monde entier. D'accord ? Mais si tu regardes le global, on est tous ensemble. Si tu regardes ton couple, on est ensemble. Si tu regardes ta personne ou sa personne, on est séparés. Si tu regardes ton fils et toi, vous êtes deux personnes. Mais si tu regardes la famille, on est ensemble. Donc il faut toujours décider, est-ce que tu vas avoir une vision globale ou est-ce que tu vas avoir une vision séparée? D'ailleurs, vous verrez que tous les couples qui gèrent les problèmes de couple selon les personnes ne règlent pas leurs problèmes de couple. C'est-à-dire que si tu as un regard personnel sur un problème de couple, le problème de couple ne se résout pas. Mais si tu as un regard de couple sur un problème de couple, non seulement tu règles le problème de couple, mais même au niveau personnel, tu évolues. Vous avez compris l'idée ou non? Je vous avais expliqué ça déjà, non? On est tous les deux en train de se prendre la tête. Les gamineries de tous les jours. Ouais. Si on est capable de faire un arrêt sur image, et tous les deux, on se regarde comme les deux, on y va ensemble. 1, 2, 3. Tous les deux, on sort de notre corps, on se met ensemble et on regarde les deux brêles en train de s'engueuler. Vous me suivez ou non? En tant que couple. Même le gars au téléphone, là, le jeudi soir. J'y écoute. Parce que, non, le vendredi, quand je les ai ensemble au téléphone, je lui ai dit, mettez le haut-parleur à voix où j'avais pas la force, j'avais pas le temps d'aller là-bas. J'ai dit, écoutez, maintenant, je parle pas de vous, moi. Parce que parce que quand je te parle, tu justifies, tu l'accuses, elle t'accuse. Non, je parle pas de vous, moi. Vous êtes morts, les deux. Je vous ai jamais rencontrés. Je vous parle d'un cas hypothétique de deux fous qui ont des problèmes. Mais vous n'êtes pas concernés. Alors venez, on va réfléchir. Le gars, effectivement, il arrive. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as en vérité? Quand tu as dépersonnalisé le problème, mais pas que tu l'as rendu théorique, mais tu as enlevé le côté négatif de la personnalisation. c'est-à-dire la négia, le kavod, les nerfs, la susceptibilité, la lourdeur, la rancune, la haine, la perte de confiance, la perte, le regard de l'autre, la peur d'être jugé. Tu enlèves tout le khar, tout le mauvais de la personne. Qu'est-ce qui reste? Le bon de la personne. Que de toute façon, vous vous aimez. Oui, on s'aime. Donc qu'est-ce que tu fais? On prend ce on s'aime, et on a un regard collectif sur la situation. Un regard de couple. Alors on trouve le problème. Ouais. Si on a un problème avec un enfant, on ne dit pas, mais toi, tiens, bah, écoutez, tu l'as éduqué comme tu voulais, tu ne m'as pas laissé faire. Non, non, toi, moi. Non. Nous, quand on l'a conçu à deux. Il n'a pas été fait dans un bébé éprouvette. Donc on regarde le problème de l'enfant ensemble. Maintenant, cette capacité à regarder l'enfant ensemble s'appelle que le couple, il est jeune. Cette capacité à regarder nos problèmes de couple en tant que couple et non pas en tant que personne, ça prouve que le couple, il est jeune. Mais cette logique-là, c'est-à-dire qu'il est encore, diluable, il est encore mélangeable, il est encore fusionnable. Comme quand tu prends deux boules de terre. Tu peux les mélanger, et après tu fais ce que tu veux avec. Mais quand tu prends deux assiettes en faïence, essaie de les mélanger. Tu dis, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Vas-y, prends deux assiettes en faïence et tu les pétris, tu dis, je vais faire autre chose. Ça ne marche pas. C'est ça que les gens ils disent, oui, il y a quelque chose qui s'est brisé en nous. Mais pourquoi ça s'est brisé? Parce que tu étais trop fini dans ta tête. Tu étais trop fini. Tu dois toujours garder une partie que tu sais que tu es construit. Ouais. Ça va?
C'est quoi fini? Fini toi?
Ça veut dire que tu es trop construit mais terminé. Tu peux pas encore changer, tu peux pas évoluer. C'est comme si tu as mis la maison comme ça, après tu dis à l'architecte, je vois pas la mer. Tu dis, monsieur, la maison elle est comme ça. Maintenant il faut casser la maison et la faire comme ça. Tu dis, on peut pas déplacer la mer, non, ça va être compliqué. Déjà ta mère pour l'amener c'est compliqué, alors, la mer, d'accord. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Il dit, c'est pareil, quand tu es trop fini dans ta tête, quand tu dis, ben, je suis comme ça, mais je changerai pas. Alors meurs. C'est vrai, comment on reconnaît un meurt? Comment on reconnaît un mort? Parce qu'il change pas. C'est vrai, tu lui dis, allez, lève-toi Maurice, il bouge pas. Hein. C'est un mort. Il est rigoureux, il est bloqué, c'est un mort. Oui ou non? Mais c'est faux. Parce que vous savez que les morts, leur corps est bloqué, mais leur conscience n'est pas bloquée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller avec des tzitzit devant le mort. On n'a pas le droit de dire des divrei Torah devant le mort. C'est un interdit de la Torah, le aigle arrache. C'est-à-dire tu fais de la peine à un pauvre, parce que lui il est pauvre des mitzvot, et toi tu dis des mitzvot devant lui, c'est sourd. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer avec les tzitzit à découvert dans un cimetière. On ne peut pas dire des livrets Torah devant un mort. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus étudier la Torah. Je dis, mais de toute façon, il est mort. Non, son corps, il est mort, mais sa conscience, elle n'est pas morte. Maintenant, imagine-toi les gens qui sont vivants, ouais, et que leur conscience, elle est encore là, mais leur corps, c'est-à-dire leur corps psychologique, les empêche de se remettre en cause. Il y en a, alors, l'amour du couple, il est encore là. Mais le corps du couple, il est rigide, il est bloqué entre la susceptibilité et la capacité à retenir la bouche. Il y a des gens, ils ne savent pas tenir leur bouche. Ils peuvent pas, ils piquent. Et l'autre, il sait que l'autre, elle n'est pas bien et qu'elle dit n'importe quoi, mais quand même, il se vexe. Donc entre celui qui se vexe et celui qui parle trop, ils ont une rigidité cadavérique. Leur couple, il est... Mais à l'intérieur, il y a un amour, tu les vois pleurer au guet, ils pleurent. C'est pourquoi vous pleurez? Ça fait 10 ans que vous vous engueulez. Il faut divorcer. Mais. Souvent d'ailleurs, après le divorce, on entend très bien ces gens-là. Parce que comme il est de Sarah, il a gagné. Il est tranquille, et d'un seul coup, il dit, mais elle est super sympa. Ouais, c'est ta femme. Oh. Ou le gars, il se vexe parce qu'il voit que sa femme, elle sort avec quelqu'un, il dit, mais attends, mais vous êtes divorcé. Pourquoi il le prend mal? C'est-à-dire que tu te rends compte que le gars, quand il était marié, il n'était pas marié, et maintenant qu'il est divorcé, il commence à avoir des sentiments. Mais c'est de la folie, le film il est à l'envers. Et bien ça, cette fragilité-là, cette lourdeur, vous voyez, c'est ça la vieillesse. C'est pas l'âge. Je vous racontais une fois, j'étais un très très grand rabbe, et Niftar aussi malheureusement, il s'appelait Rav Sasson Mizrahi. Un très très grand Mekoubal, très grand Mekoubal, et il a étudié pendant 30 ans avec Rav Tzadka. Vous avez la photo ici? Oui, Rav Tzadka. Il est en photo, il tient un cos là, ouais. Et c'était sa Havruta en Kabbalah. pendant 30 ans. Et tu sais, c'est pas n'importe qui peut étudier avec Rav Sadka. Oui, il va te faire plaisir une fois comme ça parce que tu vas lui donner 20 000 euros pour la yeshiva, mais tous les soirs, il ne peut pas étudier avec toi, tu sais même pas lire. Ouais. Il a fait 30 ans avec lui. Et pendant 30 ans, il n'a pas parlé. On ne savait pas. On disait, il venait avec son petit chapeau, il venait. Moi, je me rappelle, on était voir Hachou, il était avec son petit Mishnabro, comme ça. C'était un chauffeur. Le jour où Rav Sadka, il est niftar, il a dit, maintenant, je sors mes livres. Ils ont dit, c'est le plus grand mekoubal du monde. Je ne pouvais savoir, il n'a rien à voir comme ça. Et on a été chez lui avec un copain pour demander une bracha. D'accord ? Il avait une petite maison. Tu ouvrais la porte, tac, tu vois. Il y avait un salon salle à manger comme ça. Et en angle, il y avait un. Vous avez été chez lui, Rav Sassan Mizrahi ? Rav Sassan. Voilà. Et voilà. Et sur le côté, il y avait la cuisine. Maintenant, comme c'était comme ça et comme ça en L, donc quand on était assis au bout du salon, on ne voyait pas ce qui se passait à la cuisine. D'accord ? Et moi, je suis venu avec un copain. C'était un truc incroyable. Donc moi je suis arrivé, moi je faisais la tournée des rabbanim. Il y en a qui faisaient la tournée des voix, moi je faisais la tournée des rabbanim. Et j'avais une liste de toutes les brachot que j'avais besoin. Ouais. Et moi je m'assois à côté du rab. Et mon copain, j'ai pas fait gaffe, il est parti de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été parler avec la rabbanite. Maintenant le rab, il a 90 ans. La rabbanite, elle doit avoir 85 ans. Il est parti de l'autre côté. Moi je sais pas ce qu'il faisait. Et moi j'étais avec le rab. Ah, Yeshiben. Ma chérie, la gacha, bracha, elle dit, on sait, la skia, mais on t'achève, dit, stop, tu vas arriver. Et moi, je suis en train de demander, bracha. Et lui, il m'arrête, il fait, et fort, travers, je sais pas. Il m'a dit, où il est ton repas? J'ai envie d'être venu à Dieu, où il est? Alors, il y a une seule pièce dans la maison. Et il y a lui et sa femme. Non, mais écoutez, c'est on dirait un truc de science-fiction. Je lui dis, Rav, ni l'on y a de là. Il m'a dit, et fort, à travers, chez le cra. Alors, si vous connaissez la force des bénédictions, vous savez la force des malédictions. Alors, je lui dis, Ani Khoshev Shumdaber Ima Rabbanit. Je pense qu'il est en train de parler avec la Rabbanit. Il m'a dit, Ben, Maumdaber. De quoi il parle? Je ne sais pas si vous comprenez ce que le gars, il a 65 ans de mariage. Genre, qui c'est qui parle avec ma femme? Alors, moi, j'ai été voir mon copain, je lui ai dit, écoute, tu veux mourir ce soir? Okay. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, tu ramènes tout de suite ta tête, là, tu t'assois à côté de moi, tu me joues. Il m'a dit, mais c'est rien, je lui ai dit, viens. Mais t'es fou, quoi. Mais j'étais choqué. Comment le gars, 65 ans de mariage, où est-ce qu'elle est? Qui c'est qui parle avec ma femme? Alors, tu crois que c'est un. Comment le gars, il connaît toute la cabale entière, il n'a pas réglé ses problèmes? Il a réglé ses problèmes, et c'est une finesse. Le contraire aussi. Une fois, j'étais en train de former un groupe de monsieur pour la Nida et tout ça. Et j'ai dit, on n'a pas le droit de boire dans un verre où la femme, elle a bu. Alors le gars, il m'a dit, pendant la période de Nida, le gars, il m'a dit, mais alors, il m'a dit, vous les religieux, vous êtes des obsédés sexuels. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, oui, parce que vous, genre, quand vous allez mettre les lèvres là où votre femme, elle a mis les lèvres, ça vous excite. Alors vous êtes des obsédés sexuels. Alors au début, j'étais un peu au truc, après j'ai réfléchi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit, on est obsédé sexuel de notre femme. Toi, tu es obsédé sexuel de toutes les femmes. C'est un autre problème. Mais nous, on est obsédé sexuel de notre femme. On a besoin, on dit, tiens, je rêve que je lui tiens la main. Je rêve qu'on a besoin. Toi, ça te fait rien du tout, toi. Toi, il y a un ou deux orifices géographiquement situés que tu as acceptés. Tout le reste, pour toi, c'est de la viande organisée de manière harmonieuse. Donc, tu es un animal. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, ah, vous tapez trop fort. Je dis, ben écoute, il y a Saint-Benoît, Saint-Augustin, moi c'est Saint-Étienne. Ah bon, je sais pas si la blague elle marche en marchant italien. Bon, ça va, vous avez compris? Sintético, d'accord? Ou Santo-Etico. Ça marche aussi? Bon. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. Ça veut dire qu'au fond, au fond, au fond, au fond, au fond, une personne, elle a 62 ans de mariage, mais son accroche de sa femme, elle est encore fraîche. Donc il est jeune dans son couple. Ou le contraire, qu'est-ce qu'il aime? Elle sort, elle truc, eh ben, elle a besoin de se voir, elle sort avec des copines, elle va en boîte. Bon, des gens comme ça, des gens. Mais quel, il a 26 ans, sa femme, elle sort tous les soirs, elle sort entre filles, mais va dans des boîtes, habillée. Servez-vous. Je dis, ok, t'es pas religieux, mais ça te dérange pas? Ça veut dire que son couple, il est vieux, déjà il est vieux. Genre il n'a plus rien, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est du mépris, en vérité, c'est inintéressant. Il dit, cette logique-là, c'est une vieillesse dans la tête. Ça, c'est une vieillesse dans le couple. Ça, c'est une vieillesse dans le Hollywood. Il y a des gens, ils sont bloqués. tu as bien appris le pshat, eh bien apprends le midrash, tu as bien appris le midrash, apprends la chassidoute, tu as bien appris la chassidoute, apprends la kabbalah. Tu dis, non, c'est pas pour nous, on n'est pas dans cette école, on n'est pas dans cette shita. Mais tu sais pas que les grands litaïm, les grands rosh yeshivot, litaïm, que jamais tu les as entendus un mot de kabbalah, la nuit ils étudiaient le etzraïm et le otzrotraïm, que toi tu sais même pas que ça existe. Et c'est de la kabbalah. Mais seulement la différence, c'est que les sfaradim, ils parlent de la kabbalah, les ashkenazim, ils étudient mais ils n'en parlent pas. C'est une école. Mais tu crois que parce que celui-là, il a une école de pensée qui est des yeshivot, ça veut dire qu'il n'étudie pas la Kabbalah. Maintenant, si toi, tu es bloqué dans ta tête de penser qu'il faut étudier ça et pas ça, et bien ça s'appelle de la vieillesse. C'est pour ça que le Midrash, il dit que quand tu vas arriver là-haut à 120 ans, on va t'interroger sur le Chumash, on va t'interroger sur la Mishnah, on va t'interroger sur la Gemara, on va t'interroger sur la Halakha, et on va t'interroger sur le Maase Merkava. Maase Merkava. Je dis, mais Maase Merkava, waouh, c'est le Harizal, c'est la Torah du Harizal, je comprends rien. On va t'interroger, parce que t'es censé avoir tu étudié. Il y a un livre, si vous avez, qui s'appelle Le Char et Aura. C'est un livre comme ça, Char et Aura, qui parle en fin de compte des noms divins. Oui, mais en fait, le Char et Aura, c'est une introduction au Pitri Sharim, qui est aussi très compliqué. Et le Pitri Sharim, c'est une introduction au Otsrot Haim. Et le Otsrot Haim, c'est une introduction au Etzahaim. Alors va manger maintenant le Etzahaim de Harizal que tu ne comprends même pas un mot. Regarde-moi ce qu'il faut faire avant. Et tu vas me dire, écoutez, je ne suis pas du tout dans ce milieu. Moi, pour l'instant, je sais que Ronaldo a été sélectionné. Il paraît que Brad Pitt va épouser finalement... Tu te rends compte la distance? L'autre, il est dans Brad Pitt. Ouais. Et l'autre, il vient de faire pour la sixième fois l'Osrotraïm. Tu te demandes s'ils sont de la même religion. L'autre, il vit au pays des anges. Et l'autre, il côtoie les anges. Un, il côtoie les gens, parce que toute la nuit, il est avec les Shemot et avec Akatiel et Malchiel et Michael et trucs. Et l'autre, il habite au pays des anges, parce qu'il habite à Los Angeles, d'accord, ouais. Mais c'est tout ce qu'il a des anges. Il dit, mais des fois, quand tu passes d'un monde à l'autre, tu ne sais pas. Il dit, ça, c'est ce qui est marqué. Zaken, on dit, Zeshekana Chochma, il dit, c'est un truc bizarre, qu'il est jeune et il est vieux. Alors, on a ça, quand c'est marqué à propos de Rabbi Eliezer ben Azaria, ouais, qu'il a dit, Are Anik ben Shivim Shana, ouais, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Alors, le Rambam, là-bas, je raconte l'histoire pour ceux qui ne savent pas, quand Rabban Shimon ben Gamliel, il a été destitué, il a fallu choisir un autre nazi, un autre, un peu entre guillemets, un président spirituel pour tout Israël, il fallait choisir quelqu'un. Normalement, c'est Rabbi Yehoshua qui aurait dû être nommé. Mais comme il était en Marloquet, il était en discussion avec Rabbi Shimon ben Gamliel, on n'a pas voulu le nommer lui. Après, on a dit Rabbi Akiba, on a dit non, c'est pas possible. Il restait Rabbi Eliezer ben Azaria. Mais Rabbi Eliezer ben Azaria, il avait un problème, c'est qu'il avait 18 ans. Donc c'était un peu jeune pour être à la tête de tout Israël au niveau spirituel. 18 ans. 18 ans, c'est rien du tout 18 ans. Oui, non? C'est rien. Alors la Gemara dit qu'il a été, sa femme elle lui a dit, mais comment tu vas devenir il a demandé conseil à sa femme, comme quoi même les plus grands. Oui, t'es marié. Oui. Non, nous on est des retardataires, mais eux ils étaient. Et sa femme, elle lui a dit, mais comment tu vas te présenter devant tous ces grands rabbins? Ouais. Et toi, tu as une barbe toute noire. Et... Alors il a été dormir et le lendemain, il s'est réveillé avec 18 tresses blanches. Toute la barbe, elle est devenue blanche en une nuit. D'accord? Mais regardez le Rambam, comment il explique dans le Pirush HaMishnayot, sur cette Mishnah-là, que Ariani Keben Shivim Shana, il dit... Il n'a pas dit j'ai 70 ans, il a dit je suis comme quelqu'un de 70 ans. Il n'avait pas 70 ans, mais il était très jeune dans les jours, c'est-à-dire il était jeune, en fait il avait 18 ans. Ouais, il avait multiplié d'étudier la Torah orale et d'étudier la Torah écrite, yom balayla, jour et nuit, ad asher tashash kocho, jusqu'à ce que sa force s'est affaiblie. Il dit venizreka bo siva, et alors il a été jeté, c'est comme ça, on lui a envoyé la vieillesse, vechazar kezaken ben shivim shana, il est revenu avec un visage, avec une barbe de quelqu'un de 70 ans. D'accord? Maintenant, c'est comme une aide qu'on lui a apportée pour qu'il ait le kavod, parce qu'il aurait été le petit gamin au milieu des vieux. D'accord? Mais d'un autre côté, ça veut dire quoi? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que quelqu'un maintenant, il est Arani Keben Shivim Shana. Il est jeune, mais il est vieux. Il a 18 ans, mais il est vieux. Alors il dit en vérité, c'est ça la logique. C'est qu'il est, vieux, il est jeune dans son cœur. C'est-à-dire que son cerveau, il fonctionne à une vitesse extraordinaire, mais il est vieux dans sa maturité. C'est ça, Zaken. Zeshekana Chorma. Alors, c'est un peu ça le problème. C'est que si vous réfléchissez bien, les trois quarts des grandes décisions dans la vie, on doit les prendre quand on est jeune. Mais la maturité pour les prendre, on l'aura quand on est vieux. Donc, il n'y a rien, il y a un problème. Vous y avez ou... De la même manière que vous dites pas à un enfant de 8 ans, va construire une maison, ouais, comment tu peux dire à un enfant de 20 ans, va construire une maison? Celui qui a 50 ans, qui a eu 12 enfants, qui a une expérience de Shalom Bayit, qui lui-même est psychologue, il peut te dire, voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est un gamin, il ne comprend rien. Alors la Torah, elle a donné cette clé, ouais. De 0 à 13 ans, on n'est pas obligé de faire les mitzvot. De 13 ans à 20 ans, on est obligé de faire les mitzvot, mais on n'est pas punissable pour les averot. Et à partir de 20 ans, on est encore obligé de faire les mitzvot, mais on est punissable pour les averot. Ça va? Alors c'est un peu comme la vie. Dans la vie, il y a la petite enfance, tu es un petit bébé, tu t'amuses. Après tu commences à faire des études, tu fais des études, donc tu apprends, mais tu n'as pas encore des conséquences. Par exemple, si tu t'es trompé, tu fais une école de commerce et tu t'es trompé dans un devoir de bilan, ben, il n'y a pas de conséquences. Monte à zéro, au pire tu renouvelles. Mais si ce même erreur de bilan, tu l'avais fait dans un vrai business, tu aurais perdu 13 millions d'euros et tu aurais fait 8 ans de prison pour faux et usage de faux. Donc tu vois, il y a une période dans la vie qui est rien, après il y a une période qui est théorique, après il y a une période qui est pratique. Maintenant la Torah, elle a calculé normalement que le pratique, ça commence à 20 ans. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu es punissable. Donc ça veut dire qu'avant, tu as des responsabilités, mais ça reste théorique. Ça va? Maintenant, pour que la théorie devienne pratique, donc tu as besoin d'un apprentissage. C'est ça l'apprentissage. Donc sous-entendu que le gosse qui commence à faire des mishnayot à 6 ans, à 13 ans, 14 ans, à une certaine époque, il avait fini le chasse. À 18 ans, il était le dayan de la ville. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, pour être Dayan, il faut connaître toute la Torah et il faut être capable de trancher la loi. Et tu es confronté avec des gens qui crient et qui s'énervent et qu'il faut que tu aies un recul, il faut que tu aies une personnalité. Comment à 18 ans, tu es capable? Maintenant, nous, malheureusement, on a tellement baissé de niveau, et tellement fait baisser de niveau nos enfants que quand ils ont le bac, on dit « Ah, bah, oh, Hachem !» Ouais. Après, quand ils ont un diplôme, oh, c'est super. Après, bon, il est ingénieur. Bon, il prend des Xomil, mais grâce à Dieu, il est ingénieur. Il prend des antidépresseurs, mais il est docteur. Ouais. Parce que on fait des décalages entre leur niveau culturel et leur niveau d'expérience et après leur niveau de vécu. Il dit, mais dans la logique, c'est comme ça que ça devrait être. Normalement, quand quelqu'un il rentre à la roupa, il devrait être un homme. Ça va? Maintenant, comme nous on fait en décalé, on est obligé d'avoir du crédit. Donc après, pendant les années de Shalom Bayit, on va devenir des hommes. Et après, pendant les années où les enfants ils sont petits, on va devenir des parents. Et après, pendant toutes ces années où on va faire les mitzvot, on va devenir juifs. Alors que normalement, on aurait dû être des très bons juifs à 13 ans, inexpérimentés, et des juifs expérimentés à 18 ans. C'est ça qu'on aurait dû être. Et ce décalage-là, il dit c'est quoi? C'est la distance entre l'élasticité du cerveau et la maturité. Que quelqu'un il est jeune, et en même temps. Maintenant ça, pourquoi est-ce qu'il faut garder cette jeunesse-là? Parce que, en fait, quelqu'un, il a un regard qui est jeune. Quelqu'un, il a des projets. Quelqu'un, il a une vision de la réalité qui est jeune. Et cette notion-là, c'est le lien que tu entretiens. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasouk. Asher anochim etzavecha ayom al levavecha. Ouais. Que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on fait le krat shema. Et tous les jours, on fait ayom devarim aeleh asher anochim etzavecha ayom al levavecha. Maintenant, c'est très très difficile d'accomplir ce verset. Pourquoi? D'abord parce que le krat shema, c'est le texte que tout le monde connaît par cœur. Deuxièmement, qu'il s'agit de prendre sur soi le joug divin. Et les trois quarts d'entre nous, on pense qu'on est des bons juifs. D'accord? Donc de prendre à nouveau le joug divin, mais en plus de le prendre à nouveau et de manière comme si c'était la première fois. Ayom. Maintenant, ce n'est pas seulement sur le Kriyat Shema, ce n'est pas seulement sur l'engagement à être un serviteur d'Hachem que tous les jours tu dois t'engager. D'après certains, c'est que toute la Torah, tu dois la regarder tous les jours comme si c'était la première fois. C'est ça, mais Ayu Adevarim Aele, Asher Anochim et Savecha, Ayom. Alors Hachi dit chez Yu Divre Torah, Mechudashim Lefanecha, Ke Netinatam, Ke Yom Netinatam. Elles doivent être les paroles de la Torah nouvelles à tes yeux, comme le jour où elles ont été données. Mais le jour où elles ont été données, waouh, c'est spécial. Mais le lendemain, comme la première fois que tu fais un texte, waouh, t'es impressionné. La deuxième fois, c'est très dur de la chazara, c'est dur de réviser. Parce qu'on aime, ouais. Le gars de Mina, il dit à Adam, oh, Ev Hadashot, l'homme il aime les nouvelles. Comme nous, on veut pas, s'il imagine tous les jours il y avait les mêmes infos, on devient fou. Ouais, alors on met des scoops. Et bien c'est la même chose. Le Batlan, celui qui est paresseux dans l'étude, il veut toujours des nouvelles pages de Gemara. Ouais, et le Batmid, il révise. Ben, combien on révise? Tu la connais, non? Et bien bizarrement, pour celui qui révise, il trouve toujours des choses nouvelles. Ouais. Et celui qui ne révise pas, même dans les nouvelles pages, il recomprend de la même manière que la page d'avant. Donc il n'y a rien de nouveau pour celui qui cherche le nouveau, ouais, et il n'y a que du nouveau pour celui qui ne cherche pas le nouveau. C'est bizarre, non? Oui ou non? Pour ça on dit, en betamidash bli chidush. Il n'y a pas un betamidash sans chidush. C'est quoi, tu viens, tu vas commencer à parler, tu vas réfléchir sur un sujet. Moi par exemple, personnellement, je profite beaucoup des cours. Parce que les gens ils me disent, mais enfin, quand même, vous répétez beaucoup, vous refaites le cours là-bas. Des fois, avant Pessah, tu vas faire le cours sur le Hametz et le cours sur la Matzah. Ouais, mais tu le fais à Paris, tu le fais à Lyon, tu le fais à Nice, tu le fais à Milan. Ouais, s'ils me laissent faire un truc religieux, d'accord. Tu le fais à New York, tu le fais à Montréal. Tu vois, tu arrives à Pessah, tu as envie de manger du pain. Tu dis, mais j'ai fait tout ce mois-ci, j'ai fait Pessah, maintenant je voudrais faire un petit peu de Hametz, non? Eh ben non. Il y a des cours qui, souvent je rigole avec vous, je vous dis, regardez, 1996, il est vieux le cours, ouais. Et encore du nouveau, tellement du nouveau que des fois, avec 10 minutes d'un cours de 96, tu fais une heure et demie de cours en 2016. Alors tu sais pas, ou à l'époque c'était très superficiel, ou alors à l'époque tu étais très rapide. Parce que tu peux maintenant tu envisages même pas de faire en moins de 2h30 un truc que tu faisais à l'époque en 1h15. Alors ou tu parlais très vite, ou les gens ils comprenaient très bien, ou alors tu survolais le sujet, ou alors juste tu répétais ce qui est marqué, mais en vérité tu comprenais pas vraiment. Et quand tu comprends, et que tu veux que l'autre y comprenne, ça prend ça. Il dit donc, ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque fois, tu as un nouveau regard. Maintenant, étant donné que, on a répété déjà 6 millions et demi de fois, que Hachem, il a créé la Torah avant de créer le monde. Et qu'Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc, le monde est fait sur le modèle de la Torah. Oui? Donc, en fait, le monde, c'est la réalisation de la Torah. Oui? Et que comme Hachem, il réalise le monde au fur et à mesure que le monde existe, et que le monde, c'est la réalisation de la Torah, donc Hachem, il réalise la Torah au fur et à mesure que le monde existe. Oui, non, oui, non. C'est pas qu'on a tourné un film, et puis on le repasse. C'est le film, il est en train de se tourner. C'est comme si on est en plein milieu du tournage. Je dis, poussez-vous, monsieur, il y a la caméra. Ah, excusez-moi, oh, là, on est en train de tourner. Là, maintenant, là. Vous savez qu'on est en train de tourner un film, là. Vous le savez? Non? Vous n'avez pas prévenu?
Comédie.
Non, parce que la Gemara, elle dit que que si Aaron HaKohen, il avait su qu'on allait écrire dans le Sefer Torah ce qui s'est passé avec le Hegel, mais il serait mort. Ça veut dire que quand Aaron a vécu le Nisayon, l'épreuve du veau d'or, on a écrit dans le Sefer Torah que Aaron, il a vécu le... Ouais. Donc de la même manière, à l'époque, à Mashiach, on va sortir un Sefer Torah, et dedans, il y aura écrit tout ce qu'on a vécu jusqu'à Mashiach. Donc là, on est en train d'écrire un Sefer Torah, on a écrit que Yakour à Milan, et que Iria, il est en train de parler, et que des gens, ils écoutent, et d'autres, ils dorment. Hein, c'est. Et il y en a qui sont au parc, il y en a qui sont au football, il y en a qui sont en train de tromper leur femme, ils ont dit, alors qu'ils étaient en train de faire la compta au magasin. Tout ça, c'est en train de se passer en même temps. Donc encore une fois, Hachem, il n'a pas donné la Torah une fois, il continue à la donner, c'est pour ça qu'on ne dit pas Nathan Torah, et la Noten Torah. Ouais, Noten à Torah, Hachem, il est Noten à Torah, il donne au présent. Maintenant, si Hachem, encore une fois, si on dit que le monde, il n'est que la projection de la Torah, et que la Torah, elle n'est pas encore finie d'être donnée, donc en même temps qu'il est en train de donner la Torah, il est en même temps qu'il est en train de créer le monde. Donc la réalité qui est la projection de la Torah, elle est nouvelle chaque jour. C'est transitif. Ça va? Oui, non? Super. Maintenant, donc ça veut dire quoi? C'est que quand on te dit qu'il faut avoir un regard nouveau sur la Torah, mais si tu n'as pas compris, de toute façon, elle est nouvelle. Et si tu dis, mais elle ne peut pas être nouvelle, puisqu'elle a été donnée il y a 3500 ans, mais toi, par rapport à la dernière fois que tu l'as regardée, tu es nouveau. Entre-temps, tu as évolué, tu as grandi. Tu ne peux pas regarder ton couple la même chose qu'à l'époque. Alors comment on te dit, Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim mitzavecha ayom? Qu'il va être Hadash. J'avais un copain à moi, il étudiait à Mir, c'est une grande yeshiva. Et là-bas, ils font un daf par jour, une page de Gemara par jour. Donc en 7 ans, ils finissent le. Mais en Yud, ouais, ils finissent le chasse. Et lui, il a fait Chavruta avec un monsieur, un peu âgé comme ça. Il a dit, moi, j'ai fait trois fois le Marzor. C'est-à-dire qu'il a fait 3 fois 7 ans. Donc ça fait 21 ans qu'il est là-bas. Alors, il a dit, mais comment tu fais? Il a dit, quand il ouvre une page, il ne voit pas, lui, la Gemara Arashi. Il voit la Gemara Arashi, le Rajba, le Ran, l'Oxon, le Netivot, la Stira dans le Rajba. Il voit tout, parce qu'il connaît tout. Le gars, il connaît tout. Il a dit, comment tu fais pour encore avoir envie d'étudier? Il a dit, ben, je me mets dans une situation intellectuelle, comme si je ne l'ai jamais lu, et je la relis encore une fois. Ça va? Oui ou non? Voilà. Et si vous allez dire, mais bon, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais à Mavdil, ouais. Quand ils ont demandé à Steve Jobs comment vous avez fabriqué un téléphone pareil, il a dit parce que tous les jours, je regardais mon produit comme si je ne l'avais jamais vu et je l'imaginais encore différent et je trouvais encore un ridouche, encore un ridouche. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis, eh bien, c'est un téléphone. Il dit, non, c'est pas un téléphone, c'est un ordinateur. C'est un truc pour prendre la tension, c'est un truc pour la température, c'est un truc pour prendre les photos, tu t'arrêteras jamais. Alors que si toi tu dis c'est un téléphone, c'est pareil. Si tu dis bah c'est une femme, mais non, c'est pas une femme, c'est une personne, c'est une personnalité, c'est une sensibilité, c'est une évolution, c'est une culture, c'est un ressenti, c'est une volonté, c'est une neshama, c'est une complémentarité, c'est. Tu te rends compte, tu t'arrêtes jamais. Ça, c'est ça. C'est ça l'interdit de l'otatoua charede vafrem vacharenechem. C'est quoi l'interdit de regarder la femme comme de la viande? C'est que tu voles le corps de la femme. Ton corps ne t'appartient plus, il est à moi, c'est mon regard à moi. Mais elle dit, mais je suis une personne. Vous savez qu'un des défauts majeurs de la femme, c'est qu'elle est belle. La beauté, c'est un défaut. Parce que l'autre, elle dit, mais moi, je voudrais être une personne. Mais non, t'es pas une personne, t'es une beauté. C'est-à-dire que l'homme, il doit faire un effort supérieur pour échapper à l'attirance extérieure pour s'intéresser à la personne intérieure. Maintenant, la personne extérieure, même si elle est très belle, et tu sais, c'est comme une île, tu vas faire le tour. Oui? Alors, comment les Chachamim, ils ont dit que la femme, quand elle sort du mikvé, chaque mois, c'est comme une kala qui sort de la roupa? Tu dis, excuse-moi, ça fait 28 ans qu'on est mariés, il n'y a plus vraiment de surprise. Oui? La femme, quand elle sort du mikvé, c'est comme la kala quand elle sort de la choupa. Mais la kala, je ne la connais pas, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, c'est tout... Wow. Ouais. Mais elle, je la connais. Que tu vas me dire que c'est nouveau? Je dis, mais toi, tu as fait une erreur. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce que la Torah, elle t'interdit le corps de ta femme pendant toute la période de Nida? Ta femme, tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas dormir dans le même lit. Tu ne peux pas la voir déshabillée. Tu ne peux même pas voir ses dessous accrochés en train de sécher. Tu ne peux pas la tenir par la main. Tu ne peux pas lui passer des objets. Tu ne peux pas t'asseoir sur un canapé que quand elle bouge, le canapé il bouge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact physique. Ça veut dire que ta femme, elle n'a plus de corps pendant 15 jours. Pourquoi? Eh bien pour que tu te rends compte qu'il y a autre chose qu'un corps. Parce que tu vas parler avec une personne, tu vas échanger avec une personne, tu vas t'excuser avec une personne, tu vas t'engueuler avec une personne, tu vas te réconcilier avec une personne, pas avec un corps. Il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes, ils se font un gros bisou et c'est tout. Et les deux, ils restent starbo comme ça. Elle reste avec le truc, moi, mais il m'aime. Et moi, je vois qu'il m'aime puisqu'il me dévore. Ouais, comme les pommes, il aime les pommes. Mais regarde la gueule du trognon, tu... Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? La Torah, elle a donné à la femme le droit d'être une personne. Alors que la mode, elle a donné à la femme le droit de ne pas être une personne. Elle va être un mannequin. Elle va être une porteuse de robe. Elle va être une fente ou un décolleté qui va attirer un œil. C'est tout ce qu'elle est. Mais si elle dit, mais j'ai autre chose à dire. Mais non. Par exemple, est-ce que vous avez lu le livre qu'a écrit Cindy Crawford? Cindy Crawford. Non? Mais vous ne pouvez pas le lire, elle n'a pas écrit. Est-ce qu'un mannequin il écrit un livre? Il faudrait qu'elle ait un cerveau d'abord. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas grave. C'est comme la cavotte que vous n'avez pas réagi du premier coup. Je vois que, on sent qu'il y a une tendance culturelle beaucoup plus religieuse. Au fur et à mesure des années. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué une chose incroyable. C'est que de la même manière que toi, tu vas apprendre que ta femme elle a autre chose qu'un corps, alors aussi dans ta religion peut-être, tu vas comprendre qu'il n'y a pas que des rites et des habitudes, il y a aussi une intériorité dans les mitzvot. Ça va? Maintenant si toi, si tu as beaucoup parlé avec ta femme et tu as beaucoup évolué avec ta femme, ouais, alors quand elle arrive après le mikvé, alors tu as des choses à concrétiser, parce qu'on dit la relation intime, c'est la concrétisation de l'unité intellectuelle et de l'unité sentimentale. On se comprend, on fait un, on se ressent, on fait un, et après on fait un physiquement. Donc l'intimité, elle sert à concrétiser les acquis, l'unité intellectuelle et l'unité sentimentale. C'est comme quand tu fais un business avec quelqu'un, tu lui serres la main. Pourquoi tu lui serres la main? Ça n'a rien à voir. J'achète la maison, j'achète la maison. Ok. Tu vois la marchandise? Ok, bon, merci, c'est bon. Pourquoi tu lui serres la main? Parce que Arshav, on fait un. Ouais, ça s'appelle Gmirut Da'at. On est dans le même esprit. Quand quelqu'un t'a expliqué un truc important, tu dis, mais tu le prends dans tes bras, tu dis, ah, mais tu m'as ouvert la tête. Pourquoi j'ai besoin de le serrer dans les bras? Ouais, quand tu retrouves ton frère, pourquoi tu le prends dans les bras par habitude? Non, parce qu'il t'a manqué. Tu le prends dans les bras. Eh bien, c'est pareil. Quand la Torah dit tu vas retrouver la femme, mais quelle femme tu vas retrouver? La femme du mois dernier. Ah, c'est dangereux, ça s'appelle la routine chez l'égoïne. Ouais. Tu vas retrouver une autre femme. Quelle femme? La nouvelle. Quelle nouvelle? Quand est-ce qu'elle est devenue nouvelle? Pendant les 15 jours de Nida. Mais s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sensibilité, alors qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu as quitté un corps, le corps t'a manqué, tu retrouves le corps. C'est comme les gens disent, vous savez, on se sépare. Grave, on veut voir si on va se manquer. T'as pas compris que les gens qui font un régime en se forçant à ne pas manger, quand ils remangent, ils regrossissent deux fois plus vite. Donc si tu as quitté le corps de ta femme, donc tu vas retrouver le corps de ta femme? Non. Si tu as quitté le corps de ta femme pour rencontrer la personne de ta femme, alors tu vas être content de retrouver la personne de ta femme en même temps que le corps de ta femme. Ça va? C'est pareil. Comme toi, tu as kiffé un jour la yeshiva. Alors un mois par an, tu oublies tout, tu vas à la yeshiva, tu t'assois, tu prends ta guémara comme un barreau, et tu t'assois, et tu dis, waouh, tu te retrouves, en vérité, tu retrouves ta fiancée. C'est pareil, tu travailles l'après-midi, le matin, tu prends ta guémara, waouh, t'as un autre shabbat, ouais, tu prends un kiff de faire ta guémara. En fait, c'est ta fiancée. Mais après, même l'après-midi, quand tu travailles, tu dis, oh là là, mais c'est un cas qu'on a vu dans les élus des chefs, ça c'est un cas de réuit, oh, ça, je suis en train de faire du... Ouais, donc tu vois, tu quittes jamais ta femme, tu quittes jamais la Torah. Maintenant, si toi, tu tournes les pages, ou tu fais plaisir, ou parce que tu as peur de mourir, ouais, donc tu n'étudies pas vraiment. Alors un jour, ça te saoule, ça te... Il y a dans le vidouille de Yom Kippour, le Shlar, il a écrit un vidouille. Et dedans, il y a un langage bizarre, c'est marqué Katsti Betoratecha. Katsti, ça veut dire Katslivi Betoratecha, c'est-à-dire mon cœur s'est dégoûté de ta Torah. C'est dur. Oh, le gars, il n'étudie pas. Mais le mec, il dit, je suis dégoûté. Kat, ça veut dire, c'est comme si tu trouves un rat dans la soupe. Tu dis, ah, c'est dégueulasse. Tu peux arriver que c'est dégueulasse la Torah? Tu peux arriver. Que quelqu'un, il n'étudie pas. Après, il étudie, après, il étudie moins. Après, ça le saoule d'étudier parce qu'il en a marre de ne pas comprendre. Et après, le ravi ne lui plaît pas. Et après, il a perdu. Puis après, quand il voit un pasouk, ça l'énerve. Et après, il devient allergique. Après, quand le ravi parle, il se lève, il s'en va. Parce qu'il ne supporte plus. Comment t'es arrivé à un dégoût? Même un goy, il entend un truc intelligent, il dit, oh, c'est intelligent. Moi, je ne comprends pas tout, mais c'est intelligent. Je vois que la Torah, c'est intelligent. Et toi, tu te lèves et tu t'énerves. Comme on voit des juifs qui sont allergiques à la Torah. Alors dis-moi, si on peut devenir dégoûté de sa femme, on peut être dégoûté de son mari, on peut être dégoûté de la Torah, c'est pareil. Donc, comment tu vas garder, toi, ce lien de prêcheur? Alors la Torah t'a dit, « Ve'ayu adevari ma'ene asher enochi metzavecha ayom » En fait, c'est un regard. Tu dois être capable tous les jours de le regarder comme si c'est un jour nouveau. Maintenant, comme tu regardes ta Torah avec un nouveau regard, tu regardes ton couple avec un nouveau regard, tu regardes tes enfants avec un nouveau regard, et je te conseille de le faire. Parce que si un enfant de 18 ans, tu le regardes avec le regard d'un enfant de 10 ans, tu vas avoir des surprises. Tu vas être choqué. Et au contraire, plus tu vas les regarder souvent, et plus tu vas les voir grandir. Sinon, ne t'étonne pas que l'enfant, il dit, de toute façon, tu ne me comprends pas. Tu n'as pas confiance en moi, tu ne sais pas que j'ai grandi. Comment je ne sais pas que j'ai grandi? Mais je te vois tous les jours. Tu me vois tous les jours, mais tu ne me regardes pas. Comme un employé. Il se défonce. Bon. Il démarrait. Bon, tu lui donnais 1200 euros. Maintenant, le gars, il s'est défoncé. Il a pris le téléphone, il s'est battu. Il a pris des contacts, il a continué après le travail. Il a fait des recherches sur Internet. Il t'a fait 19 000 euros de bénéfices ce mois-ci. Donne 1500 euros. Et tu dis, non, il a fait son travail. Mais non, il n'a pas fait son travail. Son travail, il venait, il truquait, il prenait son téléphone, il prend les appels entrants, il raccroche, il rentre chez lui, il joue au flipper. Là, il s'est défoncé. Donne-lui. Ouais. Toi, tu es un patron rigoureux, c'est bien. Tu es exigeant, c'est bien. Alors, sois généreux. Tu dis non, il a fait que son travail, pourquoi je lui donner? En vérité, parce que t'es radin. T'as pas vu la brafa. Ouais. Mais t'as pas compris. Un employé, ce que tu lui as pas donné de bon cœur, il va te le prendre par le prud'homme. Il va t'attaquer, il va faire une dépression, après il va aller chez les juges, après il va dire, regardez ce que j'ai fait, il m'a jamais payé, et après il va te les prendre. Donc les 30 000 euros que tu lui as pas donné, 1000 par 1000, il va te les prendre en une fois. T'as compris ou non? Vous voyez cette logique? Ça existe le prud'homme ici, non? Les tribunaux de... Voilà. Eh bien, les enfants, c'est pareil. Tu leur donnes tous les mois. Tu leur donnes l'amour, la gentillesse, la finesse, la douceur. Sinon, ils vont tout demander en une fois. Ils vont être devant la fenêtre, ils vont dire, voilà, maintenant, je vais mourir, papa. En 5 minutes, il faut que tu leur donnes les 10 ans de tendresse que tu leur as pas donné. Tu vas payer le prud'homme. Vous comprenez ou non? Comme le gars, il s'en fout de son couple, il est là, oh, je vais faire ce jeu, il s'amuse, Et un jour, ta femme me dit, voilà, je m'en vais. Voilà, j'ai les preuves, j'ai tout. Je sais que tu me trompes, je sais que t'es un tordu, je sais que t'es un malade, je sais que t'es un pervers, je sais que t'es un vicieux. J'ai toutes les preuves sur Internet, c'est terminé. Le gars, il tombe par terre, il dit, mais attends, mais c'est ma femme, c'est mon statut, à la synagogue, tout le monde me connaît, ce truc, bon, j'ai besoin, le gars, besoin. Alors la femme, elle dit, ben, essaye de rattraper en 15 jours ce que tu as détruit en 15 ans. Voilà. Essaye. Vas-y, chrono, on débat. Tac! Là, la convocation chez l'avocat, c'est dans 15 jours, t'as 15 jours. Donc, ce que t'as pas payé, tu vas te payer. Mais c'est logique ou non? Mais si toi, tous les jours, tu avais dit, mais je suis marié, mon frère, j'ai une femme à la maison, j'ai quelqu'un qui m'attend, j'ai quelqu'un qui s'occupe des enfants, elle est extraordinaire, elle est gentille. C'est, mon mari, il se fatigue, il prend sur lui, il se tue la santé pour nous gâter, il nous fait plaisir. Si toi, tu étais capable de voir tous les jours, ouais, à Sharon Kremitsa, ayom, mais d'où il va venir les problèmes? D'où ils viennent? Je vous ai déjà dit un million de fois, les gens qui sont occupés à dire merci n'ont pas le temps de critiquer. Donc celui qui trouve du temps pour critiquer, c'est parce qu'il n'est pas occupé à dire merci. Ben c'est pareil avec le bon Dieu. Sinon, prenez le temps de voir tout le bien que Dieu nous fait. Quand est-ce qu'on pourrait trouver une seconde pour faire la gueule? Quand est-ce qu'on pourrait trouver une seconde pour pas être content, pire, pour se révolter? Parce que nous, c'est pas seulement qu'on fait la gueule. Et pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il a de mon Dieu? Et pourquoi il m'a oublié? Mais où tu trouves ce temps? Tu devrais être déjà mort. combien d'accidents, combien tu as échappé, combien tu as été protégé, combien il y a des voitures qui dérapent, et des gens qui tombent dans les escaliers, et des ruptures d'anévrisme, et des bulles d'air dans le cerveau, combien, et toi tu es là, en bonne santé. Voilà, j'ai entendu un gars, une petite marche dans un parking, une petite marche, rien, une petite marche, il marchait vite, il était pressé, il est tombé sur la tête, tac, il est mort. Il est mort, rien, un truc, un gentil, un gars sérieux, grand-père et tout ça, jeune, sérieux, religieux, et une petite marche, rien du tout. Tu dis, au moins le gars il meurt à la guerre, il a tué 74 millions d'eux. Tu dis, mais là, un truc idiot, il descendait dans le parking, la lumière ne marchait pas, il était pressé, il a couru, tac, il est tombé, tac, une mauvaise chute, tac, il a éclaté une petite vaisseau dans le cerveau, il est mort. Donc toi, à chaque fois que tu vas dans le parking, tu dois faire le halal. Chaque fois que tu prends ta voiture, tu dois faire le gomel. Chaque fois que tu prends l'avion, tu dois dire le halal avec bracha. Chaque fois que tu rentres à la maison, que ta femme te sourit, mais tu dois faire au moins le teilim, Oudou Lachem Kitov qui l'embrasse. Non. Si ta femme n'a pas dépassé le découvert, mais c'est un miracle. Si ton fils il n'est pas toute la journée en train de se piquer à la cave, mais tu dois crier à la bonté du ciel. Parce que nous, quand il n'y a pas de malheur, quand il y a un malheur et qu'on a échappé, on dit merci. Mais c'est quand il n'y a pas de malheur qu'il faut dire merci. Maintenant, ça, tu ne peux pas le voir si tu n'as pas ce regard. Donc le pasouk Asher Anochi Metzavecha Ayom, ouais, vous avez compris. C'est pas seulement que tous les jours tu dois prendre sur toi Rol Malkut Shamaï. C'est pas seulement tous les jours que tu dois regarder ta Gemara avec un regard différent. C'est que toute ta vie, tu dois la regarder tous les jours Keyom Arishon. Je vous avais raconté cette blague là avec le gars qui m'avait dit pour la routine, vous vous rappelez ou non? Non, ça vous dit rien? Un gars il m'a dit, écoutez Rabbi Chetrit, j'ai écouté le cours sur le Shabbaï, je vous dis la vérité, vous dites qu'il faut regarder sa femme tous les jours comme le premier jour. Il m'a dit, je crois que c'est utopique. Je vous dis n'importe quoi. C'est utopique, ouais. Il m'a dit, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, la femme c'est la femme, on la connaît, bon elle est vieille, le truc, tout comme le premier jour. Faut arrêter de dire des bêtises en public, monsieur. Moi j'ai dit, au moins il est franc. Je dis, mais tu sais très bien compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que tu as un regard nouveau, parce que d'abord elle a changé, en plus toi aussi tu as changé. Ouais. Je dis, maintenant il y a une autre solution. Tu ne veux pas la regarder comme le premier jour. Il m'a dit, c'est impossible. Il m'a dit, intellectuellement, je ne peux pas adhérer à quelque chose qui n'a aucune réalité physique. On ne peut pas la regarder tous les jours comme le premier jour. Je dis, il y a une autre solution. Suis-moi. Viens avec moi, on va faire un process intellectuel. Imagine, vous êtes tous les deux chez le cancérologue. Elle a une très grosse douleur dans le dos. On a fait des radios, on n'a rien trouvé. On a fait une IRM, on avait une tache bizarre. On a fait une biopsie. Et le médecin, il dit, écoutez, monsieur, le cancérologue, il dit à madame, sortez, il faut que je parle avec votre mari. Et le gars il dit, écoutez, on a fait la biopsie, malheureusement les métastases sont développées dans le corps tout entier, il lui reste un jour à vivre, demain soir elle est morte. Alors essayez de la rendre heureuse parce qu'il lui reste 24 heures. Tu vas sortir du truc, qu'est-ce que tu vas lui dire? T'as rayé la voiture? T'as pas appelé ma mère pour lui dire Shabbat Shalom? T'as grossi? C'est quoi ce nez? Il est ride là, quand tu te baisses, il est ride. Et c'est où ils sont partis la jeunesse? Non, tu vas lui dire mon amour, mon cœur, ma vie. Tu veux qu'on aille à New York, tu veux qu'on fasse un week-end à Venise, je t'adore, c'est le dernier jour. J'ai t'as deux solutions. Soit tu la regardes comme le premier jour, soit tu la regardes comme le dernier jour. Il m'a dit, vous êtes dur. Je lui ai dit, regarde la première solution, c'est plus facile. Non, en vérité, c'est comme ça. Au fond, de vous à moi, hein, on n'est pas pessimiste, on n'est pas superstitieux. Mais qui sait qui peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas le dernier jour? Bon, je sais, Hazbe Shalom, c'est minute, d'accord, ok. Altif Tarpe Nazadal, je connais toutes les phrases, mais je vous pose la question, au fond, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, alors comment quelqu'un, il peut se permettre de gaspiller encore un jour? Et de faire la tête encore un jour? Et des fois d'un mois? Et des fois 10 ans? Mais tu crois que t'es éternel pour gaspiller 10 ans? Donc c'est le contraire. Donc vous êtes pris un peu la tête, juste avant de partir, attention, je comprends rien, tu me saoules, allez, à ce soir. Et tu arrives à l'ascenseur, tu as un sentiment quand même que là-bas, elle est en train de fabriquer un bouillon de culture un tagine de haine. Tu vas rentrer le soir, tu vas ouvrir la porte avec ta fleur. Elle n'a pas répondu au texto. Genre, tu meurs. Elle n'a pas répondu au téléphone. Tu sais pas, tu dis peut-être qu'elle était occupée ou là, il n'y avait pas de réseau. Tu viens avec ta petite fleur, avec ton petit mot d'excuse, tu t'es entraîné dans l'ascenseur. Excuse-moi, mon amour, ça m'a échappé. Tu ouvres la porte, apocalypse, non, comme ça. Le napalm. Une journée entière, tu la laisses mûrir dans sa chala. Une journée entière. Alors tu réfléchis, tu as l'ascenseur, hein, ça fait une seconde. Tu reviens, tu lui dis. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, moi je t'adore, t'es la mère de mes enfants. Tu éteins le feu tout de suite. Parce que c'est plus facile d'écraser un mégot que d'éteindre un incendie de forêt. Bien que l'incendie de forêt a démarré à partir d'un mégot. C'est pareil. Des fois ton fils il t'appelle. Moi je fais très très. Moi j'ai mes garçons, ils étudient en Israël. Des fois il m'appelle. Mais alors des fois c'est compliqué parce qu'il ne s'est pas levé le matin pendant trois jours. Laura il a truqué quelqu'un il a dit qu'il a vu fumer. T'as envie de le déchirer. Mais d'un autre côté, il est à 4000 km. Il est seul. Il étudie la Torah. Ouais. Alors tu lui fais des compliments, tu lui dis je t'aime, tu lui dis colla cavote pour ce que tu fais, et c'est tout. Et lui-même, il se dit quand même. Je vais pas, mon père, le pauvre, il est truc, alors il va faire ce qu'il a à faire. Mais ça te démange de lui dire au moins un petit coup de marteau, un petit coup, gentil, mais viens, un petit coup, un petit coup, avec un marteau en or, où c'est marqué dessus, Torah Hamina Torah, c'est marqué, d'accord ? La réprimande est une obligation toraïque, et tu lui mets sur le coin de la tête. Bah, comme ça. Et lui dit, vas-y, papa, parce que je sais que tu m'aimes. Non, non, non. Je suis content de t'entendre, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, j'ai un des enfants qui va au Hachem, va se marier fin mars. Alors, il a fait une surprise. Sa Kala, elle devait venir à Paris pour la robe de mariée. Lui, il est venu avec elle. Et au téléphone, il a pris un billet, il est parti avec elle. Il est venu. Alors, imagine-toi ton fils, que tu adores et tout ça. Tu rentres à minuit du cours, tu le vois devant toi. C'est ça le romantisme. Tu fais une surprise. Tu viens. Non, non, c'est toi qui dis, bon, je te paye le billet. Ah, il s'est débrouillé, il a trouvé 300 euros. Il est venu. Ah, il a fait plaisir à sa Kala parce qu'il dit, oh oui, c'est Sefratan qui m'accompagne et il m'amène. Il fait plaisir à ses parents. Mais tu prends des moments comme ça, tu prends des photos de ça, tu dis, mais ça vaut la peine d'avoir des enfants. Après, tu t'assois, tu parles avec eux, on est des gens normaux, on rigole, on truc, et on échange et on évolue. Mais c'est pour ça qu'on a fait des enfants, c'est pour ça. Ça prend du temps, il faut attendre entre 18 et 21 ans pour avoir ça, ouais. Ça prend du temps. Mais tu vois des gens à 40 ans, ils se prennent encore la tête et des complexes et des haines et des malaises et des peurs et des nerfs. C'est ça la vieillesse. C'est ça la vieillesse. En vérité, c'est des vieux. On dit en français un vieux. Mais c'est pas une question d'âge. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas ce travail-là qui a été fait. Donc tu sèmes pendant longtemps, tu fais un effort de proximité pendant des années, mais un jour tu récoltes. C'est ça l'idée. Alors quand on est là maintenant, là on arrive à quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, en fin de compte, les fondamentaux ne vieillissent pas. Vous savez, c'est très bizarre parce qu'on a des textes. Moi par exemple, j'ai pas eu la chance de faire de la psychologie, de la sociologie, de la psychanalyse. J'ai pas fait tout ça. Et les gens, encore, j'ai fait cours, mercredi soir, il y avait un monsieur, il m'a dit, mais écoutez, je suis pédopsychiatre, il m'a dit, vous m'avez éclaté la tête. Il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, vous avez parlé de ça, c'est pas possible, mais c'est trop. Ouais. Je dis, écoutez, il m'a dit, mais c'est quoi, c'est des études qui sont faites par quelle approche, quelle accroche, quelle accroche. Je dis, monsieur, c'est la Guémara, voilà, là. Là, voilà, là, voilà. Les vieux, les fondamentaux ne vieillissent pas. Vous me suivez ou non? La couleur de téléphone, la forme, la taille. Avant le téléphone, il était comme ça, le petit. Ça change parce que c'est les choses extérieures. Mais les fondamentaux ne changent pas. Alors, si les fondamentaux ne vieillissent pas, donc quelqu'un qui reste attaché aux fondamentaux, il ne vieillit pas. L'inverse de ce que les gens y pensent. Les gens y pensent, oui, c'est un peu ringard, il faut être réactionnaire, il faut avoir une autre approche, avoir une approche nouvelle. Mais c'est pas vrai. En vérité, c'est faux. C'est faux. Le fondamental, il bouge pas. Ouais, tu prends la femme, maintenant, dans 10 ans, dans 1000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, tu prends l'homme. Dans l'essentiel, il n'y a rien qui bouge. Au fond, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, après, dans l'extérieur, ça bouge. Maintenant, quand toi, tu restes attaché aux fondamentaux, en vérité, tu restes jeune. Donc, c'est aussi une manière de rester jeune. C'est pour ça que la Torah, elle existait avant que le temps existe, puisque Hachem, il a d'abord écrit la Torah, après, il a créé la matière, et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc, puisque la Torah existait avant que le temps existe, donc la Torah ne peut pas être dépassée par le temps, puisqu'elle ne peut pas subir une chose qui, alors qu'elle existait avant que la chose existe. Donc quand quelqu'un va vous dire « Ah, mais comment vous écoutez des choses qui ont 3500 ans ?» Mais c'est quoi 3500 ans ? Ça ne veut rien dire, puisque il n'y avait pas de temps avant, au moment où la Torah a été donnée. Donc c'est d'ailleurs pour ça que quand Hachem a donné la Torah, au moment du don de la Torah, les oiseaux sont arrêtés de chanter, tout s'était bloqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de l'intemporel qui rentrait dans le temporel. C'est de l'infini qui rentrait dans le fini. Donc c'est pareil. Si toi, au niveau de ton quotidien, tu manges, tu dors, et tu fais des enfants, et tu travailles, et tu contactes le client, et tu dis bonjour à ta femme, ça c'est le quotidien. Mais dans le fondamental, qu'est-ce que tu fais ? Tu vis de l'intemporel. Parce que là, quand tu parles avec ta femme, en fait, c'est du shalom. Après, tu passes un moment avec ton client, eh ben, tu fais de l'honnêteté. Après, ici, tu passes du temps avec ton fils, en fait, c'est du chinour. Donc, en fait, à chaque fois que tu vis quelque chose extérieur, le fondamental à l'intérieur, il est intemporel. Maintenant, celui qui est dans le fondamental, il ne peut pas vieillir. Parce que le fondamental ne vieillit pas. Donc, quand toi, tu vas vivre entièrement selon quelque chose qui lui-même ne vieillit pas, c'est normal que tu ne vieillis pas. C'est pour ça que tu trouves des rabbinim qui ont 103 ans, tu leur poses des questions sur des nouvelles technologies qui viennent d'apparaître il y a 3 semaines, et le gars, il te donne une vision qui a 10 ans d'avance. C'est pas possible. Il t'a dit, attention, ça va amener ça, ça va amener ça, ça va amener ça. Écoutez, il ne savait même pas que ça existait il y a un quart d'heure. Il a bien réfléchi. Pourquoi ? Alors que l'autre qui est en plein dedans, qui est en plein dans la création du truc, il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'emmener la réalité dans un domaine de destruction. Et l'autre qui dit ça va amener du mal. Ça va amener du mal pour Israël. Ça va amener du mal pour la famille. Ça va détruire les liens. Ça va détruire les choses. Mais non, c'est le progrès. C'est ça le goy. Le goy dit, écoutez, il faut suivre le progrès. Vous savez, c'est le progrès. On suit le progrès. Ben, c'est le progrès. Il y a un nouveau médicament, il faut le prendre. Mais d'accord, mais il fait du bien, mais il fait du mal. Eh bien, écoutez, ça fait partie. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Oui. Ah oui, une grippe, elle dure 8 jours. Mais si tu prends rien, elle dure une semaine. Mais une semaine, c'est 8 jours. Oui. Alors, oui, mais là, tu peux aller travailler tout ça. Alors que là, il faut que tu te reposes, il faut que tu laisses réagir ton corps, il faut que tu sues, il faut que tu dormes, il faut que tu évacues, ouais, et après tu vas travailler. Non, tu dis non, moi je continue à travailler, alors je prends les antibiotiques, je prends les trucs, et je force. Et comme tu forces ton corps, un jour il n'a même plus le répondant. Après la grippe, au lieu de durer une semaine, elle dure 3 mois. Après tu as de la fièvre sans avoir de température, après il te trouve un dérèglement bizarre au niveau des chromosomes, et après il te dit, écoutez, je pense qu'on a touché l'inévitable. Pourquoi ? Parce que tu as épuisé ton fondamental. Maintenant, si au niveau physique ça existe, tu crois que le corps psychique, il est formé de différemment que le corps physique ? Et tu crois que le corps nishmatique, il n'est pas le référent du corps psychique et du corps physique ? C'est la même chose. Ouais, c'est ça que la Gemara a dit, Achash Begrono et Asok Batorah. La main à la gorge, il étudie la Torah. Ouais. Tu dis quel rapport la gorge et la Torah ? Encore une fois, tu as l'origine des choses. Maintenant, nous, comme on n'est pas au niveau, donc on est obligé de prendre un médicament. Ouais. Mais avant, ils avaient le niveau. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils achetaient le médicament pour la capara. Ils étudiaient un peu plus la Torah. Et ils faisaient teshuva. Et la maladie, elle est passée. Mais nous, on est pressés. On est efficace parce qu'on a des choses à faire. On a des maisons à payer. On a des voitures à changer. Alors, vite. Il faut qu'on meure vite. Comme ça, on aura le temps de tout payer. Mais peut-être que ce n'était pas ça qui était important. Si tu réfléchis bien. Parce que tu travailles les 3/4 de ta vie pour développer un standing dont tu ne profites qu'une heure par jour. Parce que pour payer cette maison, combien d'années ? Et pour payer ses comptes en banque, et ses placements, et ses costumes, et combien tu as mis de ta vie ? Et enfin, combien tu en as profité ? C'est comme les petits vieux qui arrivent, le mec il a 128 appartements, et il 62 ans, il meurt. J'ai dit, mais de quoi il a profité? Le mec, depuis l'âge de 14 ans, il travaille, il a ramassé, il s'est jamais assis, il s'est jamais reposé, il n'a jamais kiffé, il n'a jamais vu sa famille, il n'a pas vu ses enfants grandir, mais grâce à Dieu, il a laissé un patrimoine qu'il a mis 42 ans accumulé et que ses enfants vont perdre au poker en 2 semaines. Et lui, dans la tombe, il est comme ça, il dit « Fram !» Quand tu es dans les fondamentaux, il n'y a pas ce genre d'erreur. Parce que la Torah, elle t'a dit, c'est quoi ce qui est fondamental? Tu rentres chez toi, tu t'assois, tu fais ce que tu as à faire. C'est une mitzvah de s'occuper de sa famille, c'est du fondamental. Maintenant, ta croyance, c'est du fondamental. Maintenant, tes principes, ta construction intérieure, c'est du fondamental. Ton équilibre, c'est du fondamental. Ta sérénité, c'est du fondamental. Alors, on te dit, reviens aux fondamentaux. Et bien, bizarrement, des gens qui sont dans les fondamentaux, ouais, ils vivent longtemps. Tu vois, celui-là, il est pauvre. Mais il est heureux, il travaille ce qu'il a besoin de travailler, il mange ce qu'il a besoin de manger, il ne mange pas parce que c'est l'heure, il ne mange pas parce qu'il est énervé, il ne mange pas parce qu'il veut se défouler de nerfs du travail. Et bien, le mec, il a 103 ans, et il est frais comme un petit truc. Et l'autre, il a 43 ans, il est cassé, fracassé, concassé. Parce qu'il était dans les fondamentaux. T'as pas faim, ne mange pas. Tu travailles, très ce que tu as besoin. Il y a un gars comme ça, un noir. C'est un mécanicien. Le gars, il répare les voitures. Il a une queue de malade. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas cher. Parce qu'un garage, il te prend 2000 euros. Lui, il te prend 200 euros. Mais le gars, il va passer toute la journée sur la voiture. Il travaille pas quand il pleut, parce qu'il travaille dehors. Et il fait son travail, il prend 200 euros, rentre chez lui. Mais tu peux gagner 4000. Il a dit, pourquoi je vais gagner 4000? Pourquoi 4000, je vais gagner 4000, je vais dire 4000, je peux placer 2000, je peux acheter un studio, je passe à un troisième studio, les soucis, les stress. Non, il a dit, je mange, je rentre chez moi, je rentre chez ma famille, je peux travailler, je travaille. J'ai dit, le gars, il est philosophe. Il a dit, encore 1 milliard, encore 3 milliards, encore 40 milliards. Ok. Maintenant, t'as fêté, t'as l'infarctus, comme ça. T'as les 3 milliards et l'infarctus. Mais moi, je cours beaucoup. Un ami à moi, un médecin, il m'a dit, tu sais, rien. Toi, tu as fait en 10 ans ce que les gens ils font en 30 ans. Il m'a dit, tu vas réussir. Tu vas faire en 10 ans ce que les gens ils font en 30 ans. Mais fais attention de ne pas le payer pendant 20 ans. Ah oui, parce que le cœur, le cholestérol, le stress, les nerfs, les lancers dans le cerveau, les tics, les tocs, les chlocs, les blocs. Mais ça vient de quoi? Parce que tu as forcé sur la machine. Donc il faut que tu trouves un rythme, que tu fais ce que tu dois faire, et tu le fais bien, et tu t'iras très bien. Et bien ce rapport équilibré de ne pas rien faire et de ne pas trop faire, c'est aussi la jeunesse. Parce que tu sais ce qui est important. Ouais, tu vois que le client il te rend fou, tu es capable de dire, laisse tomber le client. Tu vois que ce truc-là, il te fait perdre un argent de malade, et tu dis, je vais me battre pendant 3 ans pour le récupérer, et en fin de compte, ça va me coûter plus en air qu'en bénéfice. Ah maintenant, à part la gava de dire comment je vais baisser la tête, je me fais avoir. Ouais. Mais si je vais être malade de cet argent-là, donc tu perds 40 000 dollars. D'accord, mais en santé, tu perds 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Non, bah, tu les as eu les 40 000 dollars, il t'a payé. Il rigole, il se marre, il s'en fout, lui. De toute façon, il va enrouler quelqu'un d'autre. Mais toi, entre-temps, tu t'es rendu malade. Non, tu t'es gagné. T'as pas cette philosophie de lâcher la corde. Tu vois que la corde, elle t'emmène. Le gars, il t'emmène dans le trou. T'as pas la philosophie de couper la corde. Tu dis, non, je descends avec lui, je vais lui montrer. Et tu veux lui prouver quoi? Tu veux prouver qui à quoi? Quoi? T'as rien prouvé du tout. Voilà, c'est fini. Tu as rien fait. Cette logique-là, c'est ça la logique de rester jeune. Maintenant, on a dit que c'est dans les fondamentaux, c'est dans l'investissement, c'est dans le corps, parce que tu es en mouvement. Ouais. C'est le prendre soin de toi-même. Maintenant, comme tu prends soin de toi-même au niveau physique, tu prends soin de toi-même au niveau moral, tu prends soin de toi-même au niveau familial, tu prends soin de toi-même au niveau nishmakal, ouais. C'est-à-dire tu prends le temps pour la prière, tu prends le temps pour l'étude, tu fais ce que tu as à faire. C'est Shabbat. Commence pas à dire soucis, les stress, c'est Shabbat. Shabbat, tu débranches la prise. Tu déranges tes soucis, tu fais ce que tu as à faire. C'est ton Shabbat. Tu arrives à le faire. Ben bizarrement, quand tu fais bien ça, après le reste de la semaine, tu es plus efficace. Et donc, qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as maintenu cette jeunesse. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, comme il reconstruit les choses. Ça, je vais raconter cette histoire avec la femme que Rav Shach, il lui a dit, tu t'occupes de tes petits-enfants, vous rappelez ou non? Non plus? Et personne ne révise ou quoi? Il y avait une grand-mère, la pauvre, sa fille, elle était mariée avec 4 enfants, elle a fait un accident de voiture. Et elle et son mari sont niftar. Et les 4 enfants, ils étaient vivants. Alors c'était des gens religieux. Donc la grand-mère, elle a été voir Rav Shach à l'époque, elle lui a dit, voilà, ma fille, elle est niftérette avec son mari, il y a les 4 enfants. Maintenant, moi, j'ai 60 ans, les enfants, ils sont jeunes. Alors, est-ce qu'il vaut mieux les confier à un truc qui vont les mettre dans des familles jeunes, qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants? Ou alors, moi, que moi, je les aime, c'est ma vie, c'est ma neshama, je vais m'occuper d'eux alors que j'ai 60 ans, mais ils n'auront jamais eu des parents jeunes. Alors, le Rav Shach, il a réfléchi comme ça, il lui a dit, ceux qui s'occupent des jeunes restent jeunes. Ceux qui s'occupent des jeunes restent jeunes. Bon, c'est passé dans le journal en Israël. Et cette femme, elle a pris les 4 enfants. Et elle s'est occupée, elle les a éduqués, elle a changé les couches, elle les a accompagnés, elle les a truqués, elle les a amenés à la choupa. Donc maintenant, elle a plus de 85 ans, et les gosses, ils ont 20 ans, 25 ans, et c'est leur maman. Il appelle maman, il appelle pas mamie, il appelle maman, c'est leur maman, c'est qui leur maman? Et quand elle avait 85 ans, ils ont dit, mamie, tu sais, quand même 85 ans, maman, il faut que tu fasses des examens. Alors elle était bien, elle a chfifa, ta 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 ta, elle assume, elle truc, c'est pas pareil, elle l'a fait. Ils ont dit, va faire les examens, allez faire les examens. Il s'est passé dans le journal, hein. Les médecins, ils ont dit c'est un phénomène. Ils ont fait des examens, ils ont dit c'est pas possible. Elle a dit, vous avez des poumons d'une femme de 20 ans, vous avez un estomac d'une femme de 20 ans, vous avez des artères d'une femme de 20 ans, c'est pas possible. D'accord ou non? Parce qu'on sait très bien que le cholestérol il se ramasse, on sait très bien que les artères elles se durcissent, on sait très bien que les poumons ils se truquent, que l'estomac il bat, que l'intestin il s'encrasse. Comment la personne, elle est comme si elle est toute neuve? C'est pas possible. Alors, elle a compris, c'était la bracha qu'il avait Rav Shach. Rav Shach, il a dit, c'est vrai que tu as 60 ans, mais comme tu vas t'occuper des jeunes, tu vas rester jeune. Comme tu vois des gens ouais, qui sont avec les jeunes, qui parlent avec les jeunes, qui font des activités avec les jeunes, ils restent jeunes. Et le contraire aussi, j'ai vu ça. J'ai vu un gars qui était dans à l'époque à l'Yeshiva, et il marchait comme
ça. Quel âge?
Attends. Et quand tu parles avec lui, tu sais, c'est pas évident, il faut réfléchir, c'est pas simple. Je dis, mais attends, le gars, il avait 20 ans, 21 ans. Je dis, mais comment? Moi, je me suis intéressé, moi, j'adore les cas pathologiques, enfin, pas trop logiques. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Eh bien, ils tiennent une maison de retraite. Ah bon? Depuis toujours. Il m'a dit, je suis né dans une maison de retraite, j'ai grandi en maison de retraite parce qu'ils avaient toujours un appartement dans la maison. Il a toujours vécu avec des vieux. Toujours. Ouais. Et bien le gars, il est devenu vieux. Et pour vous dire que j'ai rencontré son frère, je lui ai dit, au fait, comment il va ton frère? Il dit, t'as pas entendu qu'il est niftar? Il s'est marié, il a eu un enfant, il est niftar. Tu sais de quoi il est mort? De vieillesse. Le médecin, il ne dit rien, mais il est mort de vieillesse. Le cœur, il s'est arrêté, épuisé. 42 ans, le mec, il est mort. Mais moi, je crois à ça, moi. Moi, je crois que le gars qui s'occupe des jeunes, il reste jeune. Et le gars qui s'occupe des vieux devient vieux. Maintenant, c'est dommage d'être vieux dans la tête, alors que ton corps, il est encore jeune. Maintenant, si toi, tu arrives à rester jeune, tu vois des Rosh Yeshiva, ils ont 88 ans, tu les vois se battre au Beth Midrash, tu te dis, attends, il a 20 ans, le gars. Ouais. Et l'autre, il a 22 ans, ou il a 25 ans, il a eu son diplôme d'ingénieur. Tu lui dis, viens, on réfléchit. Je suis fatigué. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Le mec, il pense déjà à la retraite. Mais après demain, tu sais, j'ai des placements, j'ai des trucs. Ils sont lourds. Ils sont lourds à 23 ans. Et l'autre, il est refif à 88 ans. Mais ça, c'est quoi ça? C'est parce qu'il a compris. Il a compris la yeshiva. Elle lui donne la force. Vous savez, le Maharsha, qui était Chacham, le Maharsha. On a entendu parler de lui, non? D'accord? C'est un très très grand Chacham. Le Chazon Ish, il dit à Tosfot que tu n'as pas fait le Maharsha, tu n'as pas compris Tosfot. Le Chazon Ish. Ouais. Et le Maharsha, non seulement que c'est un grand Chacham, mais non seulement que c'est un grand Shishiva, mais à part ça, c'est un grand Tzadik. Parce que lui, il était rave dans sa communauté. Et un jour, il y a eu un conflit. Il y a eu un gars qui a emprunté de l'argent à un monsieur. Et ce monsieur est mort. Après, les orphelins, ils sont venus pour exiger l'argent. Et le gars il a nié la dette. Il a menti, il a dit je n'ai pas prêté l'argent. Et qui c'est qui va prouver? Le gars, il est mort. Les orphelins, ils ont dit, on est vu, on était là, on a vu tout ça. Et l'autre, il a dit, il a nié en bloc. Maintenant, il n'y avait pas de papier. c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait le marcha? Écoutez, hein. Le marcha, il a dit, ok, demain à 5 heures, vous venez au Beit Din. Ils sont venus au Beit Din les deux. Donc il y avait les orphelins qui étaient là, il y avait le monsieur qui niait la dette. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le marcha dans une pièce comme ça? Il a dit, voilà, dans ce coin-là, vous allez mettre un drap. Ils ont mis un drap dans le coin de la pièce. Et d'un seul coup, le marcha, il a dit, je convoque la neshama du père. Les gens, ils sont regardés comme ça. Il a commencé à dire, Mordechai, Ben Eliaou, Atakan, tu es là? On a entendu une voix derrière qui a dit, oui, il vient de mettre le drap. Le marcha, il a convoqué la neshama. Il a dit, tu es prêt à témoigner? Il a dit, ouais. Le gars, il a eu tellement peur, il a dit, ouais, je reconnais la dette. Voilà, je rends l'argent. Et le marcha, lui-même, il écrit, il a dit, bien que d'après la halakha, c'est pas cachère, parce que Alpi Edim, il faut que le gars, il soit vivant. Mais il a dit, c'était juste pour impressionner. C'est que le marcha, il pouvait convoquer une neshama. Vous avez compris ou non? Non, il y a personne.
C'est pas spirit, il a dit.
Non, mais il faut croire en Dieu. Ouais. Si vous croyez déjà, si vous croyez au placement immobilier, vous ne croyez pas au neshama. D'accord. Donc, pourtant, c'est sûr que ça tiendra plus que les placements. Ouais. Donc, maintenant, ça veut dire que le marcha, il pouvait convoquer une neshama. Moi, ça ne m'étonne pas. Ouais. Donc, imagine quel niveau de Torah, quel niveau de sainteté, quel niveau de Kabbalah pour être capable de convoquer une neshama. Ouais. Et le même marcha, lui-même, dans un des prakim de Shabbat à la fin, il marque là-bas, et dans son commentaire sur la Gemara Shabbat, il dit, j'ai encore beaucoup de chidushim à écrire, mais comme je ne les ai pas confrontés au Bachorim, à la Yeshiva, donc je préfère ne pas les écrire. Je ne sais pas si vous... Genre c'est quoi, tu n'as pas confiance en toi? Il dit, bon ça va, tu as écrit déjà tout ce que tu as écrit, tu peux écrire un commentaire. Non, non, non. D'abord j'étudie, après je me bats avec la Yeshiva, la Yeshiva me dit oui, non, et après, de là j'écris ce que j'ai conclu, grâce à la Yeshiva, et après j'écris. Donc le même qui pouvait convoquer une neshama, il a dit quand même qu'il ne veut pas passer, il ne veut pas écrire une chose pour l'éternité dans le commentaire du marcha si ce n'est pas passé par les chiens. Pour moi, c'est ça la jeunesse. C'est que d'un côté, il y a une très grande chorma, et d'un autre côté, il y a une modestie de dire, il faut accepter que j'ai besoin des élèves pour grandir. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Ouais. Ben c'est exactement pareil. Comme toi, même si tu es un très très. On voit des gens très très grands, quand même ils demandent un conseil à sa femme. Ouais. Même la femme, elle a une très grande personnalité, quand même elle dit je veux en parler avec mon mari. D'accord? Comme le fils, bien que maintenant il tient une boîte avec 600 employés, il dit je préfère en parler avec mon père, je veux demander conseil. C'est pas grave. Et le père avec le fils. C'est ça. Et pareil, que toi, des fois, tu as une très grosse décision à faire et tout est entre tes mains et tout le monde te regarde et tu dis ok, je vais faire Mitra. Mais quel rapport? Oui ou non, je vais faire Mitra. Et tu vas, et tu mets Mitra, et tu prends le dossier, tu dis à Dieu, voilà le dossier. Hachem, inspire-moi, ouvre-moi les yeux, éclaire-moi, parce que c'est que eux, ils comptent sur toi, et toi, tu comptes sur Dieu. Donc cette capacité, malgré que tu as un très haut sommet intellectuel, un très haut sommet décisionnaire, un très haut sommet de force, et tu es capable quand même de te remettre entre les mains de Dieu, comme si tu étais un enfant qui demande à son père, ça aussi c'est la jeunesse. Ouais, c'est logique là ou non? Ouais. Donc maintenant, si on comprend ça, vu l'heure qu'il est, d'accord? Je sais pas, je pensais que j'avais rien à dire, mais j'arrive pas à terminer. Ça va? Vous êtes fatigué ou? Bon. Alors, je vous dis, l'idée, c'est simple. Parce qu'on dit que quand les Bnei Israël étaient dans le désert, les habits qu'ils portaient ne se sont pas usés. D'accord? Ils grandissaient avec eux. On a eu le même phénomène avec Shmuel. Shmuel, le prophète, il avait un habit que sa mère lui avait préparé, un manteau, et il avait fait quand il était petit. Il a grandi, et toute sa vie, il a porté ce manteau. Et non seulement que le manteau ne s'est pas usé, mais en plus, il a grandi avec lui. Comment c'est possible? Alors les commentaires, ils disent pourquoi? Parce qu'en fait, ce manteau-là, il avait été fait par sa mère, Bemesirut Nefesh. C'est-à-dire, elle s'est sacrifiée pour ce manteau, elle a tellement prié, elle a tellement pleuré pour cet enfant. Ce qu'elle a mis dans ce manteau-là, c'est quelque chose qui n'est pas soumis au temps et qui n'est pas soumis à la logique matérielle de l'usure ou de la taille. Ouais. Donc ça a grandi avec lui. C'était comme un manteau de miracle. D'accord? Ben, cette logique, c'est pareil. Que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est quoi la Messirut Nefesh? La Messirut Nefesh, en vérité, tu prends le Nefesh. Le Nefesh, c'est le jeu. Le Nefesh, c'est le cartésien. Le Nefesh, c'est aussi la perception. C'est aussi le jugement. C'est aussi la limite. Donc quand tu enlèves le Nefesh, tu enlèves la limite. Messirut nefesh en hébreu, ça veut dire sacrifice. Mais ça veut dire aussi enlever la limite. Par exemple, tu dis, je ne suis pas capable de le faire, je le fais quand même, mais si vous ne l'avez fait. Je te dis, mais j'ai pas l'argent, mais je m'engage, parce que le gars, il va mourir, je vais trouver 80 000 euros. D'accord. J'ai le vertige, mais quand même, je vais sauter le ravin pour sauver cet enfant. D'accord. J'ai peur du feu, mais je rentre dans la maison, je ressors de la maison. Je dis, mais t'es un fou. J'ai fait mes sirut nefesh. Mais c'est quoi à ce moment-là, mes sirut nefesh? C'est que j'ai pris mon moi, je l'ai mis de côté. Mais dans le moi, il y a le côté orgueilleux et bête et lourd, mais il y a aussi le côté raisonnable et intelligent. Et bien, des fois, l'intelligence, elle peut être limitative. Donc, tu es obligé, pour faire des grandes choses, d'accord, il faut que tu sois plus grand que ton moi. Et bien, enlever le moi limitatif, même positif, s'appelle Messirut Nefesh. Ça va toujours ? Enlever le moi, même positif, mais qui est limitatif, d'accord ? Par exemple, des fois, on te donne une mission. Et toi, tu dis, moi, je me sens pas capable. L'autre, il te dit, mais si je te l'ai donné, c'est que tu es capable. Donc, tu vas être obligé d'oublier ton moi, on dit en français, de sublimer ton moi pour arriver à le faire. Et tu l'as fait. D'ailleurs, tous les héros, si vous regardez bien, les héros, c'est des pauvres types qui ont raté l'occasion d'être nuls. Un héros, il y a une situation qui se pose devant toi. Ou tu vas être un pauvre type ou tu vas être un nul. Donc maintenant, quand tu as été un héros, c'est parce que tu as renoncé à être un pauvre type. Maintenant, il y en a plein qui ont dit, attends, mais c'est pas possible. Alors, ils ont préféré rester des pauvres types. Donc, c'est quoi? Un héros, c'est un pauvre type qui a renoncé à être pauvre type. Ça va? Oui ou non? Comme les gens qui ont une vie normale et les gens qui ont une vie anormale. Les gens qui ont une vie anormale, c'est des gens qui ont renoncé à avoir une vie normale. Maintenant, dans le côté négatif, ben, c'est une vie anormale. Et dans le côté positif, c'est une vie anormale. Puis c'est une vie anormale, c'est pas une vie normale. Des fois, tu dis, mais vous n'avez pas une vie normale. Là, j'étais Shabbat à Montpellier, après j'étais Shabbat à New York, après j'étais Shabbat à Londres, après ce Shabbat, j'étais à la maison, et Shabbat prochain à Strasbourg, et Shabbat prochain en Israël. C'est pas normal. C'est pas une vie normale. Le jeudi dernier, j'étais à Madrid, le vendredi matin, j'ai pris l'avion, j'étais à Londres, j'ai fait Shabbat plein. Motsai Shabbat, je suis rentré à Paris. Dimanche matin, j'ai pris l'avion, j'étais à Porto. J'ai fait cours. Lundi soir, je suis rentré de Porto. Mardi matin, j'avais cours à Neuilly. Mardi soir, j'ai cours à Paris. Mercredi, j'avais cours à Lyon. Jeudi, j'avais cours à Paris. Aujourd'hui, je suis là. D'accord ? Demain, je suis à Cannes. C'est normal ou c'est pas normal ? C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Heureusement qu'il y a des fous, des gens pas normaux. Sinon, c'est un beau. Comment ça se passe à Milan? Eh ben, on a de temps en temps, on a des... Vous avez compris comment ça se passe? Donc, en vérité, on a besoin des gens pas normaux. On appelle ça en français des idéalistes. Oui? Maintenant, un idéal, c'est quoi? Au fond, un idéal, c'est une messirut nefesh. Parce que tu enlèves ta petitesse pour essayer de faire quelque chose de grand. Maintenant, puisque le nefesh, il a un côté rigide, qui s'appelle en français la psychorigidité. Donc quand tu enlèves cette petitesse, tu peux faire des choses grandes. Donc c'est ça aussi, de rester un idéaliste, c'est-à-dire de s'engager dans des projets et de développer des choses et de dire, tiens, je vais aider tel orphelinat ou je vais apporter pour ça en Israël ou je vais m'engager dans ce mikvé ou j'en sais rien, n'importe quoi, ou je vais aider cette famille ou je vais prendre en charge un haram ou je vais aider ça, n'importe quoi. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans un projet, et quand le projet est plus grand que toi, le projet il te porte à toi. Or, c'est pareil, de la même manière, l'idéal ne vieillit pas. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est porté par quelque chose d'idéal, alors il ne va pas vieillir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Chaye Shaha et Chaye Olam. Il y a la vie ponctuelle, et il y a la vie éternelle. Donc toi, tu dois savoir si dans ta vie, est-ce que tu vis du Chaye Shaha ou Chaye Olam. Qu'est-ce qui est du fondamental? Et qu'est-ce qui est de l'intemporel et qu'est-ce qui est du ponctuel? Tu as un petit coup de nerf avec ton fils, tu dis ça c'est Chayesha. Après tu dis mais qu'il soit bien, qu'il soit fort et qu'il soit construit et qu'il soit dans la Torah, ça c'est du Chayeola. Ouais. Ça si tu veux te détendre, tu passes une heure à la piscine, ça c'est Chayesha. D'accord. Mais maintenant tu te remets en cause, tu réfléchis, tu prends une grande décision dans ta vie, ça c'est du Chayeola. D'accord. Maintenant là tu passes un petit Shabbat, tu manges et tu dors, ça c'est Chayesha. Après tu t'assois avec ta femme, tu dis écoute, je vais prendre ce Shabbat pour qu'on décide que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de gros mots dans toutes les discussions qu'on aura, ça c'est du Chaye Olam. Donc en vérité, à chaque fois, tu peux vivre quelque chose qui est ponctuel ou tu peux vivre quelque chose qui est fondamental. Et bien si tu arrives à travers tous les canaux de la matérialité à rester dans du fondamental, bizarrement, tu ne subis pas le temps. Et tu ne subis pas la vieillesse. Et tu gardes ton élasticité, et tu gardes ta perpétuité, et tu gardes ta fraîcheur, et tu gardes ta jeunesse. Donc c'est ça, rester jeune. Rester jeune, en vérité, c'est garder un contact perpétuel avec le fondamental. Et c'est quoi la vieillesse ? C'est de s'embourber, d'accord ? Se prendre les pieds et de s'enfoncer dans le superficiel. Et après, à la fin, tu es bloqué parce que j'ai des habitudes, parce que j'arrive pas à faire autrement, parce que c'est difficile pour moi, parce que j'arrive pas à me remettre en cause, parce que mon orgueil, parce que ma bêtise, parce que mon entêtement. Et en vérité, tu es devenu vieux avant l'âge. Et tu vois que ça n'a rien à voir avec l'âge des cellules et l'âge des neurones. Oui. Et que cette capacité-là, elle, d'élasticité, même très très âgée, elle fonctionne très bien, oui. Et le contraire, des gens malheureusement qui sont vieux dans leur tête, alors qu'en vérité, si tu comptes le nombre des années, ils sont même pas nés encore. Et que souvent, ils ont renoncé à prendre le risque d'être jeune en croyant que la vieillesse était une sécurité. Il n'y a pas la recette. Il n'y a pas. Chazak Obaro, que du bonheur. Merci à vous. Donc je rappelle que le cours est enregistré deux fois, enfin trois fois.
Ouais. Faire vite.
Alors j'ai dit le cours. Leilo Nishmata de Vera. S'il vous plaît, le cours est dédié Leilo Nishmata de Vera Yedid Bat Adel. Kachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël.
Elisa Batmeri.
Pour le.
Non, pour ma grand-mère.
Et aussi pour Elisa Batmeri.
Amen.
Et pour Avram Shimon Ben Simcha, pour Eliyahu Ben Aisha, Yitzhak Ben Aisha.
Amen.
Et pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël,
amen.
En particulier amen. Pour vos belles-mères pour qui vous priez tous les jours.
Ah, quel ange.
D'accord.